Nous sommes Daniel et Philibert, les fondateurs de The Bouffe, agence de marketing et communication spécialisée dans le business de la bouffe, de la terre à l'assiette.
Nous sommes tous les deux passionnés par la bonne bouffe. Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin nature et adore cuisiner.
Philibert est savoyard, un ambassadeur de son terroir. Notre activité nous amène à rencontrer et accompagner les dirigeants et entrepreneurs du business de la bouffe.
Ainsi, nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Nous sommes aujourd'hui dans notre nouveau studio qui n'est pas encore totalement prêt, mais qui commence à prendre forme. Et je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert, qui a la plus belle cave des vins savoyards à Paris. Bonjour Philibert.
Bonjour à tous, bonjour Daniel. Oui, mais il faut pas le dire, c'est secret.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de vin, et je sais que tu ne pourras pas t'empêcher de faire référence au grand vin de ta belle Savoie. Nous avons la chance de recevoir un des fondateurs et les CEO d'une start-up qui n'est plus une start-up, qui en moins de 10 ans a fait sa renommée grâce à la vente des vins par abonnement sur Internet et qui en 2017 a rejoint les groupes Vente Privée, VP. Nous sommes aujourd'hui avec Martin Ohanessian. Bonjour Martin.
Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, encore plus dans vos nouveaux bureaux, magnifique.
Merci, t'es trop jeune.
C'est sincère, ça vient du cœur.
Martin, aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire du Petit Ballon, son développement et surtout la vision pour les années à venir. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement?
Bien sûr, Martin, j'ai 38 ans, fondateur du Petit Ballon. Une passion, l'apéro.
C'est bien cette passion.
Une autre passion, la bouffe.
C'est nickel, tu fais la transition avec notre question rituelle dans ce podcast, c'est pourquoi la bouffe et dans ton cas, pourquoi le vin?
Pourquoi la bouffe et le vin? Pour moi, c'est quand même hyper corrélé. J'aime pas l'un plus que l'autre.
On
c'est vraiment le truc. Moi, c'est, je sais pas, c'est déjà des souvenirs de famille, les dimanches à la maison, les parents qui cuisinent de ouf. Moi, j'ai des origines arméniennes. Pareil, ouais. Ma grand-mère, tu vois. Je crois que tout le cœur de notre famille, il est lié autour de cette grande table, plein de trucs à manger et surtout plein de trucs à boire parce que c'est tout autant important. Et voilà, moi je trouve que c'est mes meilleurs moments de vie et c'est ce qu'on essaye de faire avec ma famille, moi, ma femme et ma fille, mes potes. Voilà, je trouve que c'est mes meilleurs moments de vie. Ouais. C'est trop important.
Est-ce que du coup tu peux nous raconter l'origine du projet du Petit Ballon, comment ça a démarré, l'inspiration, l'idée de départ?
Ouais, c'est un peu lié.
Ouais, je me doute.
J'ai toujours adoré la bouffe. J'avais peut-être un peu plus de technique, un peu plus de connaissances, c'est un truc que j'adorais.
En vin particulièrement,
justement.
Ah d'accord.
Ouais. Et j'adorais cuisiner. Je le fais vachement moins parce que ma femme cuisine 10 fois mieux. Mais je me suis dit, le vin, c'est un truc que ça fait quand même des années que j'en bois, je sais toujours pas le choisir, c'est toujours un moment d'enfer, de savoir quelle bouteille sortir, quelle bouteille acheter, que tu sois au supermarché, chez le caviste, au resto, c'est un mauvais moment, le mec arrive, t'es avec ta meuf, tranquille, quel vin vous allez boire, mais j'en sais rien mec. Et donc je me suis dit voilà, il faut à un moment trouver un petit système pour que ce moment du choix du vin soit beaucoup plus facile. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit comment ça peut être fait, tout ça. J'ai fait pas mal d'ateliers de tu sais pour apprendre l'œnologie, tout ça. Alors là, donc comme tu disais, on n'est plus une start-up, ça fait quand même 10 ans. Donc il y a 10 ans, c'était le début de Top Chef. Donc les gens qui commencent à se remettre un peu dans cette passion de la cuisine et tout ça. Donc un moment un peu chelou où le vin a pas encore pris ce pas. Donc on a Top Chef, mais on a rien au vin. Les gens se disent on va déjà commencer par la bouffe, ensuite on verra. Et donc les ateliers d'œnologie, c'est les trucs un peu des années 90 où t'as un expert qui t'en met plein la vue et tu ressors, t'en sais pas plus.
C'est très technique.
T'as rien compris. Ouais. Et t'as aucun petit truc pour acheter. Donc j'ai fait ces ateliers, j'ai lu plein de bouquins, exactement pareil. Les bouquins c'était beaucoup trop technique à l'époque, il y avait pas de petits bouquins sympas pour apprendre le vin. Donc on est dans un espèce de flou du vin. Et moi tous mes potes à ce moment-là, donc j'ai 27 ans à peu près. On est à peu près dans la même situation, tu commences à essayer de boire des bons trucs, tu sais jamais quoi choisir, etc. Donc je me dis, il faut absolument trouver un système. Donc voilà, le système de base, la mission de base de ce projet, c'était de rendre le vin plus accessible.
Et ça dès le début. toujours d'actualité, j'imagine.
C'est le jour, hein, et c'est aujourd'hui, c'est notre seul leitmotiv, quoi. Ouais. Et donc, je me dis, oh là là, comment on va faire ça? Donc, je rencontre pas mal de professionnels du vin. Je comprends pas qui fait quoi. C'est hyper, tout est un peu nébuleux. Et à ce moment-là, je tombe sur une boîte qui s'appelle Foodzy aux US, une passion qui a fermé assez vite, d'ailleurs. Dommage, c'était vraiment une bonne idée.
C'est
donc,
une box. C'est ça.
C'était les premiers. Donc, pareil, il y a 10 ans, il y avait pas de box. Ça existait pas. C'était tout en ébullition. Et donc, Foodzy, c'est une des premières box US de food qui sort et qui envoie un produit. Là, c'était food. C'était des cookies, par exemple, la box numéro 1, avec une histoire sur qui a fait les cookies. C'était une meuf. Trop bien. Histoire de ouf. Une espèce de Texane, je sais pas quoi, et qui te raconte son histoire de cookies. En fait, t'as juste envie, c'est de manger tous ces cookies, d'aller dans la cuisine de cette meuf, de la regarder faire ses trucs. Et je me dis, mais bien sûr, le contenu, c'est la clé, et ouais, encore plus dans le vin, qui est très compliqué, qui est très subjectif. Un vin, tu peux l'aimer un jour, plus l'aimer la semaine d'après parce que il pleut, parce que t'as une journée de merde, parce que je sais pas quoi. Donc il faut vraiment qu'on puisse guider les gens. Donc là, déjà, j'ai deux idées de ouf que dont je m'inspire bien quand même. L'abonnement, business model pour un entrepreneur incroyable, parce que
est venu, quoi.
Bah bien sûr. Et le contenu, je me dis, mais quelle bonne idée de raconter une histoire avec des mots hyper simples, où voilà, on te raconte qui a fait ce produit, donc le vin ou le cookie ou n'importe quoi, comment on l'a fait, on te donne plein de photos, on te donne plein d'images, et à ce moment-là, t'es obligé de l'aimer, ce produit.
C'est de la pédagogie, en fait.
Bah, bien sûr, ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, premier truc. Et deuxième truc, c'est un mec qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui est un peu le roi du média.
Grand influenceur aujourd'hui. Ouais.
Bien sûr. Et en fait, qui a commencé par faire des vidéos de vin, avec ce côté US un peu crado. Je me rappelle, il faisait des vidéos d'une minute où il crachait sa dégustation de vin dans des casques de football américain. Donc c'était fait à l'américaine, mais le mec, en fait, tu le regardais, tu disais, je sais pas trop qui c'est, en tout cas il parle d'un vin, il a l'air possédé, t'as trop envie de boire son vin, pareil. Donc je me suis dit, bah voilà, en fait, bon, à ce moment-là, on sait pas trop comment ça s'appelle, on a que des noms de merde d'ailleurs, mais on se dit, enfin, je me dis, parce que à ce moment-là, je suis tout seul,
ouais,
il faut un truc d'abonnement. J'aime trop ce principe, parce que tu vas suivre les gens. Ma passion, c'est le bonheur du consommateur. Donc je me suis dit, là, la mission numéro un, c'est de faire un truc que le gars ou la meuf reçoit tous les mois, et plus elle va être contente, plus elle va encore rester, etc. Donc je me suis
trop bien dans la durée.
De la pédagogie, beaucoup de contenu pour apprendre le vin, pour apprendre qui y a derrière, comment a été fait ce vin, quelles sont ses spécificités, etc. Et ensuite, du contenu aussi vidéo. Et pareil, il y a 10 ans, on n'est pas du tout... Enfin, le vidéo, je peux pas dire que ça
mais depuis les débuts, vous faisiez des vidéos?
Ouais, dès le premier jour. Dès le premier jour. Donc voilà, et je me dis, trop bien, j'ai le concept, allez, c'est parti. Et là, je me retrouve un peu le bec dans l'eau. Je me dis, ok, j'ai le concept, mais
ça,
en fait,
seul, ouais.
Je suis tout seul. Ouais. Je suis tout seul. J'ai une énergie de ouf. À ce moment-là, j'y crois trop. Mais il me faut quelqu'un pour sélectionner le vin. Moi, je suis incapable de le faire. Je connais rien, ni au milieu, ni même à la dégustation.
Oui, t'as pas de relation et pas trop d'expertise.
Non, et je sais même pas qu'il faut appeler, s'il faut appeler un agent, s'il faut appeler le vigneron en direct. Je connais pas la logistique. Je connais quand même pas grand chose à ce moment-là. Et donc, je rencontre plein de professionnels du vin, des œnologues, des sommeliers, je sais pas qui fait quoi, je sais pas ce qu'il me faut. Et je tombe que sur des gens qui matchent pas au projet. Bon, la vraie histoire, maintenant, ouais, je vous raconte la vérité, c'est surtout eux qui ont pas matché avec le projet. Mais quand même, moi, je me dis à chaque fois, j'ai pas non plus un coup de cœur, je me dis pas...
Et quand tu dis match pas, c'est dans quel sens? Parce que justement, le projet de démocratiser les vins comme ça leur plaît pas?
C'est quoi
qui pose problème?
C'est à ce moment-là, tous les gens que je rencontre, c'est des trop grands experts, trop intello, trop dans l'expertise du vin, pas du tout dans la démocratisation et pas du tout dans le plaisir aussi, je trouve. C'est pas des gens qui me font rêver, c'est pas des gens
qui donnent envie.
Non, pas du tout. Et mon projet dans la démocratisation, c'est aussi monter une marque cool, sympa, fidélisante, c'est monter la grande famille du petit ballon. Ça, c'est la grande famille ou la communauté, c'est le truc le plus important de notre business. Donc je me dis, il me faut quelqu'un que t'as envie de,
ouais, que tu vibres,
d'aimer, qui te fait vibrer. Donc je sais pas. Là, il y a beaucoup de fois où on se démoralise, où je me démoralise tout seul. Je me dis, c'est con parce que mon idée est cool. Personne n'y croit.
T'as cherché pendant combien de temps un associé?
Oh, bien 6 mois, je pense.
Ah, 6 mois, ok.
Ouais, 6 mois, t'as le temps de bien réfléchir quand même. Hein.
Et un jour, tu rencontres Jean-Michel Deluc.
Oh là là là, mais c'est pas un jour, c'était fabuleux.
C'est une deuxième naissance.
J'ai une chance de ouf, c'est que je suis dans un incubateur, trop bien. Et on est très potes avec toutes les boîtes. Et il y a un mec qui me dit, écoute, t'as trop de chance, mon projet vient de se planter. Et j'ai le meilleur sommeil du monde pour toi. Je me dis, attends, des conneries comme ça, j'en ai entendu. Et il me dit, t'as rendez-vous demain, je sais pas quoi. Bon, très bien, Jean-Michel Deluc. Ok, nom assez cool. On va. Et je me rappelle, j'avais rendez-vous à Villiers, là, au métro. Je vois un mec qui avait l'air d'attendre. Je me dis, si c'est lui, c'est sûr que je le prends. Il a une trop bonne tête. Il me faisait déjà un peu vibrer. Donc, c'est bien lui. Trop de chance. On va.
Belle carte de visite.
Un bel carte de visite, ancien chef sommelier du Ritz. Et surtout...
Il était chef sommelier du Ritz à l'époque? Non, il avait déjà quitté.
Premier sommelier du web. C'est un mec assez marrant. Quoi.
Ouais, donc déjà, bon fit, quoi. Culture digitale.
Ouais, grave. Alors qu'il a l'âge de mon père, donc une culture digitale...
Oui, on voit ce que tu veux dire.
Qui était quand même pas mal. Hein. Très moderne, et il l'est toujours vachement. On va dans un café, il me fait boire 10 000 vins, il est là, il est que dans la passion, que dans le plaisir, je me dis, c'est mortel, et il est trop chaud par le projet, et en 20 minutes, il me dit, c'est parti, on y va. Je lui dis, attends, je t'ai limite pas prêt à ce que tu me dises, ça rapidement. Donc, trop bien, on s'aime trop, du jour 1 jusqu'à maintenant, j'ai bouffé encore avec lui hier, un bonheur, Jean-Michel. Mm-hmm. Et donc là, je me dis, bah, ok, on peut partir, il nous faut juste un nom. On trouve le petit ballon assez vite, une soirée bien arrosée.
Donc c'est vous deux au départ, que
ouais,
vous les deux.
Exactement.
Et quel deal tu lui proposes, quoi, de prendre une...
Je lui propose départ, il me dit juste, Martin, je te fais confiance, c'est pas du tout un businessman.
Ouais.
Il me dit, je te fais confiance, je lui propose un truc, pas mal de parts. Et franchement, on a signé un truc, je sais même pas s'il a lu le contrat. C'est un peu l'histoire aussi du petit ballon, de tous ceux qui vont rejoindre. C'est très très sur la confiance, très sur la famille, très sur la communauté, très voilà, c'est très cool. Donc on monte le petit ballon. On a quelques petits,
que tous les deux au début, hein, d'accord. Ouais. Ouais,
OK. Ah ouais, là on a personne pour nous aider, et surtout le monde de l'abonnement n'existe pas. Ça veut dire qu'on va se heurter à 1000 problèmes, c'est-à-dire faire un site internet, bon, ça va. Faire un site internet sur l'abonnement, c'est impossible. Il n'y a aucun module qui t'aide. Il n'y a aucun système de paiement qui t'aide à faire de l'abonnement.
C'est scratch, quoi.
Aujourd'hui, c'est très courant, mais à l'époque, en effet,
aujourd'hui,
il y en a
t'as des modules. En 2 minutes, tu montes un système d'abonnement. C'est la folie. La logistique, ils sont très mauvais en abonnement. Personne ne connaît. Et donc, on a des problèmes sur chacun des items qu'on travaille, et les vignerons nous font pas confiance, ils font pas confiance au digital, c'est très très chaud, ils nous disent votre truc c'est pourri,
tu vas vendre des
mais de toute façon tu vas me payer mes bouteilles, donc je vais te le faire. Donc les vignerons aussi du départ, Château Saint-Côme par exemple, les Rocs de Genlis, qui étaient nos premiers vignerons, à l'abbaye de Fontfroide aussi, je me rappelle très bien, c'est des gens aussi qui se disent, ok les gars, on part avec vous. Ils prenaient un petit risque, pas énorme, mais en tout cas ils nous ont aussi aidés parce que c'était des marques cool, des vins très très bons. Ils nous ont aidés à partir. Donc voilà un peu le démarrage.
Donc Jean-Michel gère toute la partie sélection, la relation avec les viticulteurs.
Exactement.
La logistique à ce moment-là, comment tu fais? Tu...
Là c'est pareil, je tombe sur un
bricolage,
mec.
Bricolage, non.
Bah non, pas du tout.
Non,
et ça, je pense qu'on a eu beaucoup de chance. On tombe sur un mec, Aymeric Anguéard, que j'adore toujours encore maintenant. Pareil, famille du petit ballon, important, qui travaille à ce moment-là pour un logisticien à Évreux, ADS, qui est toujours notre logisticien aujourd'hui. Et je lui dis, écoute, la logistique, tu vois bien que c'est pas mon truc, je ne connais rien à ton métier, mais c'est trop important pour moi parce que j'ai envie que les clients soient bien livrés, j'ai envie que les vins arrivent en bon état, j'ai envie de faire kiffer les gens. Mm-hmm. Et donc la logistique c'est méga clé. Donc je lui dis, toi ton entrepôt il est énorme, t'as une vraie expertise dans la logistique, aide-moi. Il me dit, mes clients, mais ils envoient des milliers de colis à limite par jour. Ouais. Je lui dis, bah ouais, mais ils ont commencé aussi avec zéro colis, non?
Ce qu'on fera dans 6 mois.
Ah bah bien sûr. Et il m'a fait confiance, il m'a fait un prix de ouf. Et il m'a dit, ok, en fait, j'aime trop le projet. On y va. Et je crois en toi. Bon, je lui avais fait un truc quand, bien évidemment, en 2 ans, on envoyait... je sais pas combien de box qu'on a fait, ouais, mais en 10 ans, tu vois. et voilà, et on a
classique du business plan.
On s'est heurté à plein de problèmes, mais on a eu aussi beaucoup de chance sur plein de pans du business, et dont la logistique, et on a trop bien fait de le faire directement externalisé. Donc ça nous coûtait plus cher, mais au moins ça envoyait bien.
Mais tu avais aussi, il y a d'autres associés qui ont rejoint l'aventure en fait. Ils arrivent à quel moment de...
Ouais, on a Mathieu qui arrive hyper vite. Mathieu c'est un pote d'école, trop sympa. C'était vraiment le mec qui faisait que des conneries.
T'en parles bien, tu le vends bien.
J'adore, trop marrant. C'est le mec, tu te dis, mais si je bosse avec lui, ça va être... on va bien rigoler, tu vois. Et on bouffe ensemble, je sais pas pourquoi, on faisait une bouffe un peu tous les 6 mois pour checker un peu où l'autre en était. Et je lui dis, écoute, je viens de monter ça, franchement je galère, il me faut de l'aide. Il me dit, je suis trop chaud.
Ça faisait combien de temps que t'étais...
Ça faisait pas longtemps, ouais. Hein, je sais pas, mais c'était en petits mois,
ouais.
Tu vois.
Ah oui,
d'accord. Il est arrivé très très vite. Hein. Mm-hmm. Il me dit, je suis trop chaud. Bon, je lui dis, bah allez,
lui, c'est parti. Lui, il était quoi, il a quel profil? Il était chez Nestlé, c'est ça?
Il était chez Nestlé, exactement, il vendait des produits surgelés. Mmh. Et après, il était à ce moment-là, il était au Bonbon magazine de Paris. Voilà, mais je sais pas, c'est un mec, t'as trop envie de l'avoir dans ton équipe. Il peut tout vendre à tout le monde. Il est très fort. Il fout la bonne ambiance. Il a des bonnes ondes. Un bon gars qui allait très bien dans le petit ballon. Super match avec Jean-Michel. Donc il nous a rejoint très très vite. Et après il y a un quatrième associé qui vient, c'est Clément. Clément c'est notre profil. Donc c'est lui, vous m'avez présenté en tant que CEO du Petit Ballon. En fait,
tu n'es plus les CEO.
Non, mais en fait je l'ai jamais.
Tu n'as jamais été les CEO.
Non,
quoi alors, tu as...
Je suis pas assez bon. Le CEO il pilote vraiment la boîte.
Alors quel est ton rôle? On s'est trompé d'invité, Daniel.
Ouais, je pensais qu'on avait les bons.
Eh ouais,
on va arrêter l'enregistrement.
C'est Clément que vous auriez dû inviter. Non, en fait Mathieu, Jean-Michel et moi on est je crois qu'on est des artistes. Ce qu'on aime, il y a beaucoup de créativité et très très peu de rigueur. Et donc on se rend très vite compte qu'il nous manque
un businessman.
Quelqu'un qui va regarder les chiffres, nous on les regardait pas, qui va piloter les marges, qui va piloter un peu la logistique, qui va piloter la finance, qui va piloter un peu une boîte. Et donc là, je me dis... Et à ce moment-là, on fait rentrer des actionnaires, c'est au bout de 2-3 ans.
D'accord, donc c'est beaucoup
premier
plus
million de chiffres.
Ouais, ouais.
Et là, on se dit, en fait, on a une boîte qui commence à avoir une petite gueule, mais on pilote vraiment comme des buses. Et on a eu de la chance d'avoir fait rentrer un tout petit peu avant des business angels, trop sympa, que j'aime trop. J'ai petit déjeuner avec encore Marc Ménazé là, ce matin.
Qui est rentré genre au tout début, quoi.
À tout début, pareil. Un déjeuner, tout l'histoire du Petit Ballon, des gens sont faits autour d'un déj en, je sais pas, une demi-heure. Jean-Michel, Mathieu, ce Marc, ouais. Et Clément aussi qui arrive. Donc Marc me dit, écoute Martin, t'es vraiment sympa, ta boîte elle est cool, mais vous êtes vraiment des buses, ouais. Donc il vous faut un CEO. Je sais même pas ce que c'est qu'un CEO.
Comment tu le prends à l'époque? Ouais, non, tu le prends
je
bien.
Je le prends assez bien.
On comprend.
Ouais. Ouais, je crois que mon intelligence c'est de me dire, ok, s'il y a quelqu'un qui me dit un truc, je prends l'info.
Oui, puis Marc, c'est un mec d'expérience qui a accompagné plein de startups.
Bien sûr, voilà, j'adore.
Il connaît le sujet.
Ouais, je me dis, il est pas con. Il me dit, tu sais combien tu fais de marge? Je lui dis non. Bon, il me dit, tu vois, il y a déjà un problème. Ah ouais, t'as raison, ça me paraît pas con ton truc. Et donc,
là... il a mis de l'argent quand même, donc.
Bien sûr, non, mais bien sûr.
Il croit au projet.
Ouais, c'était très relation hyper saine. de quelqu'un qui nous aide vraiment. Et donc, on cherche
un CEO.
Et là, c'est chaud.
Comment on cherche un CEO?
C'est oh là là.
Question, ça.
Bon, t'appelles les gens, tu connais pas un profil CEO. Ils me disent, donc, toujours pareil. Je sais pas trop ce qu'il fait un CEO. Moi non plus, mais c'est quelqu'un qui va piloter aller une boîte. Ouais, si j'ai un gars, je sais pas quoi. Et donc, il y a plein de gens qui nous envoient des gars. Quand je dis un gars, c'est homme, femme. Hein. Et d'ailleurs, les finalistes, c'était une femme. Que je salue, mais je me suis dit ça c'est profil trop solide, trop solide, trop pas assez d'amour, pas assez de
d'amour pour le produit, tu veux dire,
ouais, qui était vraiment là pour piloter la boîte
dans,
et la marge,
pas dans la culture de l'entreprise du coup.
Non, ouais, franchement elle nous a flippé. Je suis sûr que la boîte aurait eu des finances de ouf, mais en tout cas
bon, du coup on va pas dire son nom,
je pense qu'on serait parti. Et complètement par hasard je bouffe avec ce Clément. Pote d'école aussi, profil pas du tout, donc lui il faisait école d'ingé, école de commerce, c'est un super malin.
Il faisait quoi à ce moment-là? Il était en poste.
Il était en poste chez, dans une espèce de filiale de consulting de Orange, très digital, très technique, il était hyper en avance, voilà, un profil. Un super profil petit ballon, donc hyper sympa, dans l'amour du produit, dans l'amour du conso, dans tout ça, ce qui était une vraie chance pour un CEO, hein. Et il avait quand même une autre casquette où son cerveau, c'est une machine, tu lui fais rentrer 1000 informations et te ressort avec une seule hyper précise, je sais pas quoi, grosse maîtrise du chiffre, grosse maîtrise des process, grosse maîtrise de tout ce qu'on n'avait pas. Donc on le voit comme le sauveur de la structuration de notre entreprise. Et donc effectivement l'entreprise va beaucoup mieux depuis qu'il est là.
Il est toujours en poste, c'est toujours en poste. Donc c'est le CEO aujourd'hui de.
Ouais, exactement. Okay. Ouais. Et donc voilà, c'est les quatre mousquetaires là. Hein, que...
On va vouloir peut-être avancer, parler de l'offre du petit ballon, rentrer dans ça un détail, mais juste une anecdote, une histoire qu'on a découvert en préparant les podcasts, c'est qu'au tout début, vous étiez tous dans ton appartement, c'est ça, où vous faisiez des dégustations. Comment ça, tu peux nous raconter un peu cette période là?
Oh, l'âge d'or du petit ballon. L'âge d'or du petit ballon pour une simple et bonne raison que c'est ce qui crée, en fait, vraiment le petit ballon dans son entièreté. Et tout ce qu'on a fait dans cet appartement rue des Dames, c'est ce qu'on essaye de reproduire aujourd'hui à plus grande échelle. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est du bricolage. C'est de l'agilité. C'est, beaucoup, beaucoup de kiff. C'est-à-dire que, c'est un peu n'importe quoi, mais on se marre vraiment. On reçoit presque tous nos clients qui viennent chercher nos box à ce moment-là, le vendredi, quasi toute la journée.
Donc, tu as un système de click and collect, c'est ça? Ils commandent en ligne, ils viennent chercher dans la boutique.
Exactement.
Pas dans la boutique, dans ton appartement. C'est ton appartement. C'est encore la boutique.
Et mon appartement, il est plus petit que vos bureaux. Hein. Ouais. Bah, après, ils ont un sacré bureau, je peux vous dire.
Énorme building.
Et donc, c'est des gens qui viennent. Non, ils viennent à partir de midi. Et on leur dit, les gars, vous venez, je vous paye tous les vins que vous voulez, mais en revanche, vous me racontez tout ce qui va et tout ce qui va pas dans le petit ballon.
Ouais, cool ça.
Et donc, on ne fait que boire, bien sûr mais surtout,
t'as du feedback.
Échanger avec les gens. Et c'est la apprendre. Clé de tout. À ce moment-là, on a un petit
test,
truc.
Ouais, puis t'es en mode test, donc c'est très bien d'apprendre et d'avoir du feedback. Ouais.
Et tu fidélises ces gars, parce que...
Bien sûr, je reçois encore des mails de ces gens qui passaient il y a 10 ans à la maison.
Bien sûr.
Et ça a duré beaucoup, beaucoup de temps. Ça a duré 1 an et demi, je pense, dans notre appart. Et après, on s'est dit, putain, il faut qu'on fasse ça à plus grande échelle. Donc, on a pris des bureaux plus grands pour recevoir plus de gens. Et on fait, en fait, toujours ça. Alors, on les rencontre vachement moins en physique parce que c'est plus compliqué, parce qu'il y a des clients dans plein de villes, mais en tout cas on a toujours beaucoup beaucoup d'écoute de clients. Moi je lis tous les avis, les bons surtout les mauvais, on échange vachement, on a des petites communautés, des ambassadeurs du petit ballon avec qui on parle encore plus, etc.
Très connecté à la communauté.
Bah ouais, c'est le secret du petit ballon, c'est vraiment l'amour du consommateur et l'amour aussi du producteur, parce qu'on est un triptyque.
Si on revient justement au début, là, ces rencontres avec tes premiers clients dans l'appartement, c'est quoi les grosses tendances des feedbacks? Enfin, ça a plu tout de suite ou il y a justement ils challengent l'abonnement?
Franchement, ils sont même durs.
Ouais.
Franchement, on monte le truc. Nous, on se dit, moi, quand il y a quelqu'un qui monte un truc, je suis trop sympa au début. Mais Eux, ils étaient très durs. Surtout, tu leur fais boire deux, trois canons. Ils ont plus de filtre, hein. Ouais. Mais au moins, c'est trop bien. Ils disent, franchement, ce vin, c'était pas ouf. La valeur perçue, tu me faisais payer, je crois que c'était 25 euros à l'époque. Bah, j'en ai pas assez. Il me faut plus de possibilités. Il faut que je puisse racheter. Il faut que je puisse avoir plus de contenu. Il faut, qu'est-ce qu'ils nous disaient? À un moment, je me rappelle très bien, on avait monté une box avec un vin de l'abbaye de Fontfroide, un muscat sec, je me rappelle hyper bien, et c'était un vin très très bon, d'une qualité de ouf. Muscat sec, c'est assez compliqué, c'est des trucs un tout petit peu sucrés, mais la bouteille était 50 centilitres, donc 50 centilitres, c'est pas 75 le truc, donc c'était plus petit. Et les gens, ils sont devenus fous.
Ah ouais.
On a dit, mais là c'est une arnaque. Et donc on a dit, oula, ok, désolé, on a remplacé toutes les bouteilles.
Depuis, tu fais plus de bouteilles de 50 centilitres.
Ah bah non, c'est sûr, à jamais. Mais voilà, on avait, ils étaient très durs et ça nous a fait beaucoup beaucoup progresser. Donc sur la partie abonnement, et on a très vite vu que les gens voulaient racheter les vins qu'ils avaient reçus, dégustés, aimés. Donc il fallait créer un autre pan du business qui était le e-shop.
Ah bah du coup. Parce que je sais pas si tout le monde connaît en fait l'offre Petit Ballon en détail et les différentes offres qui existent. Donc parlons de ça. D'abord l'abonnement en fait. Quels sont les types d'abonnements? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail l'offre que vous proposez à vos clients?
Les mécaniques.
Ouais, bien sûr. Alors les trois gros business du Petit Ballon, c'est l'abonnement, le cadeau et le.
C'est les cartes cadeaux.
Et le e-commerce. Ouais, d'accord. Exactement. Donc l'abonnement, c'est hyper simple. Tu t'abonnes pour une durée limitée. Ou illimité d'ailleurs.
Il y a pas d'engagement.
Non, tu fais ce que tu veux. Soit tu choisis une durée parce que t'es plus en confiance, soit tu choisis.
Et tu payes moins cher si tu t'engages.
Non,
non.
Non, on est très nul à ça. donc tu payes pareil, mais voilà, c'est ensemble. Et tu choisis une formule. L'âge de raisin, le bel âge, c'est à partir de 20 euros ou à partir de 40 euros, c'est toujours deux bouteilles.
D'accord.
Mais c'est des qualités différentes,
etc. Voilà. Il y a une offre 100% bio aussi, non?
Il y a une offre 100% bio, il y a aussi une offre qui va sortir, une offre de vin nature, il y a des offres limitées, des vins encore plus ouf, des trucs comme ça. Donc voilà, on a plutôt pas mal d'offres.
Et donc l'abonné, il reçoit une fois par mois, c'est ça la fréquence, une fois par mois.
Une fois par mois, deux bouteilles,
des fiches et un magazine.
Ouais, la Gazette du Petit Ballon, plein d'avantages, racheter les vins au meilleur prix du marché, etc. Voilà, ils font partie de cette grande famille du Petit Ballon. Donc ça, c'est l'abonnement.
Et tu peux te résilier, comment ça se passe? C'est quand tu payes une durée de 6 mois, t'as payé les 6 mois, mais tu peux résilier, pas du tout.
Alors,
durée indéterminée.
Quand t'es en durée déterminée, à la fin, ça s'arrête.
Ouais.
On te prélève pas. Et quand t'es en durée,
indéterminée,
le récurrent,
ouais.
Tu t'arrêtes quand tu veux. Nous, on est dans la grande liberté. On ne peut pas créer une famille si on
pas
piège
un truc
les
trop,
gens.
C'est le problème des abonnements. C'est quand c'est perçu comme étant trop créé,
exactement,
trop contraignant, c'est souvent un frein.
Ah non, tu te désabonnes en un clic, c'est hyper facile.
C'est ce qu'on voit souvent.
On va revenir.
Donc ça, c'est l'abonnement. Donc plein de contenu pour tout savoir sur le vin, etc. Ensuite, il y a la partie cadeau. La partie cadeau, c'est le même principe que l'abonnement, sauf que je te l'offre à toi. Et là, je te choisis. C'est moi qui choisis pour toi
la
formule et la durée.
Ah non, tu peux offrir un abonnement. C'est pas une box, une fois. C'est,
non, non,
tu
non.
Tu peux offrir à l'autre un abonnement.
Et non, et ça, c'est
6 mois.
Okay.
Exactement.
Donc c'est une carte cadeau, 60 euros, et tu
exactement.
3 mois des petits.
Alors, c'est pas une carte cadeau, parce qu'une carte cadeau, c'est un truc qui a une valeur.
Et tu échanges, ouais.
Ça, on en vend aussi, mais c'est
un autre truc. C'est que t'abonnes un tiers.
Exactement.
T'abonnes quelqu'un d'autre.
Ouais.
Sympa.
Moi, je te dis, je te choisis, je connais un peu tes goûts, je vais t'offrir 6 mois de la formule de ouf.
Bah, c'est sympa, Martin. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Pour les apéros de Jury Studio.
Je vous avais dit que j'étais que dans
la générosité.
Donc ça cartonne, et c'est aussi ça fait aussi connaître beaucoup le Petit Ballon. Et l'autre pan du business, le dernier, enfin à peu près le dernier, c'est la partie e-commerce. Donc tous les vins qui sont passés dans les box, on les vend sur notre e-shop, et maintenant
à l'unité, c'est ça,
à l'unité, ouais. Donc là tu
pas à l'unité, peut-être
avec un prix un peu plus élevé que l'équivalent dans la box, en fait, parce que la box, elle, par exemple, elle est à 20 balles, ça veut dire qu'en moyenne, on va dire que chaque vin est 10 euros. Si tu vends à l'unité cette bouteille là elle va être 10 euros, elle va être un peu plus chère.
Non, ouais, alors c'est assez compliqué. La valeur perçue de la box, en gros, les vins que tu reçois dans la box, on arrive à les faire en prix TTC Sur notre boutique et dans à peu près entre allez 7 et 10.
Ah d'accord. OK.
Donc c'est pareil, on veut que les gens puissent profiter au maximum de cette bouteille une fois qu'ils l'ont reçue, dégustée, aimée. On veut être positionné au meilleur prix de marché et aussi au prix le plus juste. Donc on veut pas on veut créer une marque et créer aussi de la fidélité avec les vignerons. Si le vigneron, je lui prends et je lui dégomme son prix de bouteille, il va me dire écoute, très bien, tu m'as fait un sale coup, en revanche donc tu vois, on leur dit quel est le prix juste où vous vous sentez justement rémunéré, justement ça fait beaucoup de juste et de justement, mais en tout cas c'est le prix sur lequel on va se baser.
Mais ce qui est sympa, c'est que l'abonnement, il vient nourrir un peu l'activité e-commerce, parce que ce que tu dis, moi je prends l'abonnement, j'ai kiffé une bouteille, bah je me dis je prends une caisse quoi derrière.
Tu prends une caisse, tu vas prendre une caisse en janvier, tu vas te dire oh il était vraiment trop bon, tu la reprends en juin, etc. Donc il faut qu'on arrive à suivre. Donc l'abonnement pour nous, c'est faire découvrir aux gens des vins qu'ils auraient plutôt pas l'habitude d'acheter. Ou qu'ils allaient pas acheter parce qu'ils connaissent pas cette bouteille. Quand t'arrives au supermarché, si t'as plein de rayons, ce que t'aimes bien, c'est soit tu choisis un peu l'étiquette, soit tu choisis une bouteille qui, il te semble que tu l'as un peu déjà dégustée, tu vois. Bon, en fait, c'est souvent pas le cas. Mais voilà. Donc, tu découvres des bouteilles, grâce au petit ballon. Mais sur le e-shop, t'as aussi des vins, plus connus, plus stars, qui restent toujours un peu dans l'ADN du petit ballon, des vins super bien travaillés, qui ont une petite spécificité, un truc un peu plus marrant que les autres. Et t'as aussi des grands Bordeaux, des trucs comme ça que les gens aiment, tu vois. Mais dans ce cas-là, tu l'achètes et juste à la caution du petit ballon qui dit on l'a dégusté, franchement, on l'a bien aimé, ce truc est bon, il est bien travaillé.
Juste sur les mécaniques, j'ai vu sur ton site, il y a deux prix sur le e-shop. Il y a un prix abonné et un prix pas abonné. C'est-à-dire que quand t'es abonné, que tu reçois une box, si t'achètes sur le e-shop, t'as un prix préférentiel.
D'accord. Sur tous les vins qui sont passés dans l'abonnement.
Ah. D'accord. Ah, c'est ceux-là où il y a deux prix, d'accord.
Exactement. Et sur tous les vins, par exemple, les Bordeaux, typiquement, les grands Bordeaux de, je sais pas quoi, j'en ai pas vraiment en tête. T'as un prix unique pour tout le monde, que tu sois abonné ou pas abonné.
Et justement, on a une question, parce qu'on parle des prix, on a une question de l'audience, en fait, et Alizée sur LinkedIn qui nous demande, ou qui te demande à toi, puisque rendre les vins accessibles est votre mission, les prix est-il un des critères les plus importants pendant la sélection?
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. Alors, après, il faut le faire rentrer dans un abonnement.
Fourchette, quoi.
On a un maximum, tu vois, d'achats dans chacune des formules d'abonnement. Donc, si on déguste un vin, qu'on le trouve maboule, que ce vin, je te dis n'importe quoi, coûte 45 euros, bah, il est évident qu'on pourra pas le mettre dans l'abonnement à l'âge de raisin qui coûte 20 euros. Mais en tout cas, le seul critère de sélection, ce n'est pas l'étiquette, c'est pas la région, c'est juste le goût. Mmh. Jean-Michel, il dit, bah, aujourd'hui, on va déguster que des Côtes du Rhône ou même que des Gigondas, je te dis n'importe quoi. Mmh. Il se retrouve avec 50, 60 en fonction de l'appellation Gigondas, il les goûte tous et il dit ça. C'est un produit de ouf, ils l'ont trop bien travaillé, spécificité du Gigondas, parce que il y a tel arôme. C'est ce que les gens veulent retrouver et on a passé un moment de maboule. Donc le seul critère de sélection, c'est la qualité. Et Jean-Michel de Luc, que je salue encore une fois, le seul truc sur lequel il transige jamais, c'est là-dessus. Mmh. Il dit, le jour où le sommelier fait passer une bouteille dégueulasse parce que le vigneron lui a filé un petit billet...
C'est sa crédibilité,
parce
que, quoi.
Il a tout perdu.
Oui, bien sûr, il peut pas.
Et voilà, et Jean-Michel, il est droit comme un i.
J'ai vu des vidéos, il parle hyper bien, il est charismatique, il est sympa, ouais. On aurait dû l'inviter d'ailleurs.
Ah, je l'ai proposé.
Il a pas voulu.
Il est un peu booké, Jean-Michel.
Et la livraison, parce que la livraison, c'est un truc qui pose souvent problème pour des business d'abonnement, e-commerce, etc. Et en plus, avec un prix à 19,90€, c'est que voilà, ça doit peut-être prendre une partie importante dans tes coûts. Comment vous avez géré ça au début? Comment vous gérez ça aujourd'hui?
On s'est, dès le début, on s'est dit, comment se compliquer un peu la vie?
Vous êtes bon pour faire ça.
On est très très fort. On s'est dit, l'intérêt, c'est d'arriver à faire un produit le moins cher possible, avec la meilleure expérience possible. Donc, on est ni une compagnie low cost, ni une compagnie qui fait que de l'expérience de ouf. On est pile entre les deux. Et donc, ça nous amène que des emmerdes. Mais c'est comme ça qu'on aime, et c'est parce que voilà, on veut que pour le moins cher possible le client ait le truc le plus haut possible. Donc la logistique, bien évidemment, ça fait pas, donc il y a le coût du vin. Il y a le coût pour ramener le vin. Donc une fois que t'as acheté le vin, il faut que donc t'as une logistique où le vigneron te l'envoie, que tu payes bien sûr. Ensuite, t'as la préparation, etc. Et t'as l'envoi qui est aussi le plus cher. En fait, c'est pas la logistique, c'est l'envoi.
Bien sûr.
C'est un énorme coût. C'est un énorme coût qu'on essaie de faire supporter le moins possible aux clients, tout en mettant la meilleure qualité de vin, de produits, de magazines, de contenu là-dedans. Donc voilà, c'est un travail d'équilibriste tous les mois. Plus on rajoute des formules, plus on se rajoute des emmerdes. Mais voilà, on adore ça.
Donc aujourd'hui, tu valorises le coût de livraison à combien dans les offres? C'est 3, 4, je m'en rappelle plus, c'est à peu près 3 euros, un truc comme ça.
Ouais, 4 euros, parce que je crois que c'est 19,90 et 19,90 si tu viens le chercher en boutique, parce qu'on a deux boutiques à Paris, et 23,90 si tu te le fais livrer en version standard.
Et du coup, le client a la possibilité en effet de faire du click and collect dans vos boutiques.
Exactement.
Il n'y a pas de frais de livraison.
Non, exactement.
Et du coup, ça, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, l'omnicanal. Assez vite, vous avez ouvert des boutiques physiques.
Ouais.
Tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi vous avez voulu faire ça, prolonger l'expérience? Qu'est-ce que ça vous amène aujourd'hui?
C'est exactement ce dont on parlait quand les gens venaient à la maison.
Ouais. T'as voulu prolonger ça?
Exactement. En fait, très honnêtement, ça devenait plus possible de vivre dans cet appart. Il y avait des cartons partout de vin, des gens qui passaient beaucoup trop. C'était devenu, on était limite en train, c'est devenu un bar, notre truc.
Toi, tu vivais plus dedans déjà?
Je vivais dedans.
Encore. T'avais ton lit à côté.
Ah non, mais heureusement, j'avais un petit étage, ce qui était très cool. Mais non, c'était l'enfer. Mais on rigolait trop quand même. Très très belle époque. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on professionnalise un peu ça, et j'aime pas ce mot, mais qu'on scale un peu. Et il faut qu'on voit si ça puisse marcher à un tout petit peu plus grande échelle. Et donc j'ai des potes de Yumiam là qui me disent, ouais, il y a un local trop bien juste à côté de chez vous, je sais pas quoi, le mec est en galère pour le louer, c'est grand, c'est cool, je sais pas quoi.
C'est genre Saint-Lazare, non? C'est
ouais, exactement, rue du Rocher. Mmh. 43 rue du Rocher. Donc j'ai trop sympa les gars, on va voir. Local de ouf. 10 fois trop grand.
Quelle surface? Ouais, voilà.
Quelle surface? Je dirais, ça doit faire 80.
Ah ouais, ça va être déjà
80, gros. À ce moment-là, je pense qu'on est 3, hein. il devait y avoir 2 stagiaires. On était 5 ou 6, parce que je me rappelle de l'inauguration. Et on trouve ce local très cool. Le mec nous fait un très bon prix parce qu'il arrivait pas à le louer. On se retrouve à
Donc
côté d'un...
un petit pas de porte à payer.
Non.
Même pas?
Non, zéro.
Le pur.
On se retrouve à côté d'un resto italien trop bien. On est trop bien dans ce truc. Et on se dit bien sûr que c'est ce local qu'il nous faut.
Qu'est-ce que tu fais dans ce local alors?
Et ben là, en fait, on se dit, pour mettre nos 4 bureaux, il nous faut presque rien comme mètre carré. Donc on décide de séparer le truc en deux et de faire un côté bar, boutique, et un côté
bureau. Ouais. Stockage? Non, de toute façon, stockage, j'avais votre partenaire
pour
la raison.
En plus, on a une trappe qui donne en dessous et qui est toujours notre lieu de stockage de boutique. Et donc là, on se rend compte que les gens adorent passer. Les gens adorent encore plus passer quand t'es pas trop dans un appart, mais dans un truc où tu peux un peu mieux recevoir les gens.
Là, c'est en mode click and collect. Tu viens chercher tes box sans payer la livraison, c'est ça?
Exactement.
Tu fais pas de vente à l'unité.
En fait, on voit que il y a quand même pas mal de gens qui viennent un peu à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, etc.
Activité
donc
caviste.
On commence à mettre quelques bouteilles sur les murs. Les gens se disent, tiens, avec ma box, je vais prendre aussi un peu de celle-là.
Ça marche.
Ça fait de l'acquisition aussi offline, quoi, pour
bien
le donneur.
C'est ça qui est génial.
Les gens qui passent des vins.
Donc, l'omnicanal, pour nous, c'est une façon de, toujours pareil, de mieux rencontrer le client, de mieux le connaître et de beaucoup mieux lui parler, en fait. À ce moment-là, il te dit tout.
T'as du feedback direct.
Il dit tout. Quand t'envoies un avis sur Trustpilot, t'as pas le temps, tu dis pas tout, il y a des trucs un peu cachés, je sais pas quoi. Là, le mec te dit tout. Et c'est une mine d'or.
Et puis, ça, comme disait Daniel, ça vous donne de la visibilité, ça crée l'acquisition, c'est un super outil d'acquisition.
Ouais.
Tu transformes facilement, tu peux convertir en
Exactement.
Boutique.
Non, franchement, c'est une super idée. Et là,
vive
la mise à grande échelle est beaucoup plus compliquée, en revanche.
Ouais.
On monte une deuxième boutique et là, on se rend compte que...
Combien de temps après?
Ça, c'était assez long, hein.
Ouais.
Parce que la première boutique, la première boutique, c'est un carton, 43 rue du Rocher. On a toujours, genre, plus de 2000 abonnés qui viennent tous les mois.
Mm-hmm.
C'est un, C'est une boucherie, le truc. Ouais. C'est trop bien. Et donc, ça veut dire que, en plus, c'est souvent les mêmes clients qui reviennent. Donc, tu les connais plus. Plus tu les connais, bah, mieux tu les guides. Donc, les gens, après, ils s'en vont plus. Ils sont trop bien. Eric, notre chef caviste, il les connaît. On dirait qu'il est cousin avec tout le monde. Ouais. Donc, c'est une super aventure, l'omnicanal, mais très compliqué. Donc, après, on décide de monter une vraie boutique qu'on a pensé dès le début en boutique, alors que là on a créé des bureaux boutiques, on savait pas trop. Maintenant c'est devenu une vraie boutique, mais voilà, on s'est rendu compte que monter une autre boutique c'était très cher. Cette fois on a payé un pas de porte, on est dans une rue beaucoup plus passante, rue du Commerce là dans le 15e, et en fait ça marche très bien. Mais aujourd'hui, le petit ballon est pas assez fort pour se dire je vais monter 50 boutiques et faire ça dans toutes les villes. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on fait trop Paris. Ça me, au fond, ça m'agace. Parce que moi, je viens de Lyon. Je comprends pas pourquoi à Lyon on aurait pas les mêmes avantages, mais à Marseille, Toulouse, non.
Tes abonnés, ils sont splittés comment en fait géographiquement?
Au début, c'est très Paris. Ouais. Parce que c'est nos potes, c'est les gens qui vivent aussi limite autour de la rue des Dames. Et maintenant c'est toute France. Ce qui est sûr, c'est que la grande partie des abonnés habitent dans des villes d'une certaine taille.
D'accord.
Ouais. On n'a pas vraiment de raison. Il y a sûrement des raisons très simples, mais il y a un peu de tout. Et comme on a trois business différents, on a aussi trois typologies de clients hyper différents. Ceux de l'abonnement sont pas du tout les mêmes que ceux du cadeau. Mmh. Et ceux du cadeau et ceux de l'abonnement sont pas forcément les mêmes que les acheteurs de vin en ligne.
À ce point, ouais. C'est quoi la différence justement?
C'est assez étrange. Bah par exemple les cadeaux, c'est un tout petit peu plus vieux et un tout petit peu plus féminin que l'abonnement, parce que c'est quand même toujours les meufs qui font les cadeaux. C'est elles qui sont en zozo. Au début, c'était très bon cadeau pour les oncles, les pères, je sais pas quoi.
Et l'abonnement, c'est plus masculin, alors? C'est majoritairement masculin?
Non, l'abonnement, c'est 50-50. C'est hyper équilibré. C'est plutôt jeune. Allez, je dirais que c'est entre 18, parce qu'on peut pas en dessous, bien sûr.
tu me rassures.
Et 40 ans, tu vois, c'est vraiment le cœur. Donc, c'est assez long. Et le e-shop, c'est plus masculin. Cette fois est plus vieux que l'abonnement et le cadeau.
D'accord.
Mais on est les seuls, je crois, dans le vin qui parlons aux jeunes. Donc les jeunes, ils vont acheter du vin sur le petit ballon.
Et en fait, on allait parler de la sélection, mais je pense que
on a déjà un peu parlé,
mais tu nous parles un peu des profils des clients, donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup aussi. Donc tu nous as parlé des clients en France qui sont plutôt dans des centres urbains, plus jeunes. Vous êtes aussi présent à l'étranger avec les petits ballons ou plus?
Plus.
Vous avez essayé?
Ouais, on a eu des...
Tu peux nous en parler, c'est super intéressant.
Aïe, 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 ça c'est notre grande tristesse. Alors, un truc marrant aussi, pareil, il y a un mec un jour qui vient, Antoine Maï, il dit « Salut les gars, j'adore le petit ballon, mais j'habite en République tchèque, je veux trop le monter là-bas. » Non, bah nous, on lui dit « Bien sûr. Bien sûr.
C'est pas forcément les pays par lesquels on commence.
Non, mais franchement, le mec avait l'air chaud. On lui disait, mais bien sûr, on te fait confiance. Donc, on fait un deal hyper simple pour lui, hyper simple pour nous. Et ça a pas mal pris. Finalement, ce qui a beaucoup pris là-bas, ça s'appelait Vedeci. Il a arrêté parce que ça l'a saoulé, ça mettait un peu trop de temps et il avait une famille et tout ça. Il voulait faire un peu autre chose, mais expérience assez marrante. On est plutôt hyper content d'avoir fait ce truc. Après, on s'est dit, il faut aller dans les gros marchés où il y a plein de sous, plein de clients, je sais pas quoi. Donc on voulait aller en Angleterre. Et là, catastrophe.
Mais pourquoi catastrophe?
On n'a jamais réussi.
Qu'est-ce qui a pas marché?
Bah déjà, les noms, ça s'appelait Petit Ballon.
Ouais, ça, on n'a jamais voulu changer ça.
Et c'était des vins français?
C'était des vins majoritairement français. On connaissait pas du tout le marché, on connaissait pas les clients, on connaissait rien. On a monté ça de France. On n'était pas sur place. On a fait 2-3 apéros quand même là-bas. On a bien rigolé, on a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps et d'efforts. Et en fait, les gens achètent du vin en Angleterre avec des gros discounts bien dégueulasses. Et nous, c'est tout ce qu'on fait pas. Donc ça a pas du tout marché. Hein.
Ça a duré combien de temps l'aventure là-bas?
Ah, pas mal en plus.
Ouais, non, vous avez un petit peu persévéré.
Tant qu'à faire.
Un peu trop persévéré. Je sais pas, je dirais au moins 3 ans, je pense.
Ah, hein. Ah ouais? Et la Belgique, vous avez essayé la Belgique?
Alors, Belgique, en fait, on est en.
Ouais, parce qu'à la Belgique, on vient. Ouais.
Sauf que, Belgique, on a décidé de pas traduire et tout ça, notre contenu. Ouais. Donc, ça veut dire que tu t'adresses à une seule
communauté.
Une seule communauté. Donc voilà, c'est ce que font les gens quand ils ouvrent la France, ouvrir la Belgique francophone, c'est limite pas ouvrir un autre pays.
Oui,
c'est dans la continuité.
Ouais, donc on considère pas comme un pays, mais plein de
ça
clients belges.
Ça fait plaisir à nos auditeurs belges qui nous écoutent.
Si tu veux rentrer en Belgique, je crois qu'il faut faire des trucs en flamand, tu vois, il faut que tu te dises OK.
Oui, et là je vais aux Pays-Bas, total quoi.
Ouais, ouais, exactement. Et on l'a pas fait parce que on pense qu'il y a beaucoup, un gros marché en France à prendre, et on adore ce marché. C'est là où on sent bien et où ça marche le mieux. Et je pense que c'est là où les gens nous comprennent aussi, comprennent un peu cette dynamique du petit ballon.
Et l'acquisition, en fait, c'est un sujet qui est très important dans l'e-commerce, et je pense que dans l'abonnement, pareil, encore plus. Quelles sont les stratégies principales, les principaux canaux d'acquisition, les coûts par client? Est-ce que tu peux nous donner un peu une vision sur l'acquisition?
Alors, nous, ce qui est important, c'est la fidélisation ou la rétention.
Bien sûr.
C'est bien plus important que l'acquisition. Une fois que quelqu'un s'est abonné, on a tout intérêt à ce qu'il reste au maximum. Donc, on a tout intérêt à se concentrer 10 fois plus sur le produit, ses avantages, la valeur perçue et les trucs comme ça, plutôt que de se dire, on va trouver un gisement de, je sais pas combien, de personnes avec un coût d'acquisition, je sais pas quoi.
Ça fait donc très, très élevé.
La fidélisation, c'est notre point numéro 1. Et en fait, notre point numéro 1, c'est faire un produit de ouf pour que quand toi, tu le reçois chez toi et tu bois ta bouteille, tu vas forcément inviter des potes.
Soit viral.
Exactement, tu vas parler du petit ballon, tu vas boire ce truc, si la bouteille est bonne, si tu parles bien du truc, le lendemain, il va se dire, ah, c'était trop bien ce petit ballon, je vais faire pareil avec mes autres potes. Et donc c'est ça ce qui marche dans le petit ballon.
C'est la bouche à oreille quoi.
Exactement. Et donc ce qu'on fait en acquisition, c'est plutôt de se dire je sais pas comment on peut appeler ça, mais on va essayer d'acquérir des clients qui ont été touchés à un moment par la marque du petit ballon. Donc on fait, tu vois, plus du retargeting des choses comme ça, plutôt que de faire de l'acquisition pure et simple. Parce que quand tu rentres sur le petit ballon, un truc d'abonnement, ça fait toujours peur aux gens. Ils disent, oh putain.
Même s'il n'y a pas d'engagement, en fait, on a.
Ouais, mais même, il y a, tu vois, les gens, ils disent abonnement, c'est mon truc de téléphone, je peux jamais m'en séparer, je sais pas quoi. L'abonnement, c'est un truc qui fait peur aux Français.
Je comprends. Ouais.
Et donc voilà, notre stratégie numéro 1, c'est le produit, faire un produit de ouf. Donc faire en sorte que les gens parlent du petit ballon à leurs potes. Donc la feed. Et ensuite l'acquisition, parce que bien évidemment on est obligé de faire plein de tests. Est-ce qu'on va trouver on va essayer les jeunes plutôt femmes de Nantes par exemple, et on va tester des opérations, on va voir si ça marche. Donc après on a un vrai boulot d'acquisition,
bien sûr, du testing la totale,
exactement, quoi. Mais tu vois, je pourrais même pas te dire le coût d'acquisition, parce que c'est des chiffres qu'on pilote vachement moins.
Et la fidélisation, tu dis que la principale stratégie, c'est vraiment se focaliser sur la qualité du produit pour
exactement.
Que les gens ne vous quittent
pour
pas.
Pour le bouche à oreille.
Et quel est le taux des désabonnements, en fait, les churn que vous avez aujourd'hui sur les petits ballons?
Alors, ça, c'est pareil, c'est assez compliqué parce qu'on a donc presque 3 business différents et donc des churn différents. On a le cadeau, mais donc le cadeau, là, on parle même pas de churn parce que finalement, moi, je te l'ai offert.
C'est pas abonné, en
fait. Non, exactement.
Voilà.
Il l'a pas choisi.
Ouais, il l'a pas choisi, il l'a pas payé, etc. Donc, on en perd beaucoup.
Bien
et finalement,
sûr.
C'est des gens, alors, toujours pareil dans la stratégie de fidélisation, qu'on va aller chercher pour leur dire, OK, tu t'es abonné, soit t'as kiffé, reviens avec nous. Il y en a qui reviennent, bien sûr. Il y en a qui disent, c'était vraiment trop bien, mais c'est pas moi qui ai payé, et j'en ai bien profité.
Ça change un peu la
donne. Il y en a qui font, acheter leur abonnement depuis des années par leurs enfants et ils disent à Noël Vous m'oubliez pas, cette année, c'est encore le petit ballon pendant 12 mois.
Ah, tu sais, une bonne idée cadeau.
Ça,
là.
C'est trop bien, franchement. Hein, on a des clients de ouf là-dessus. Donc, le churn cadeau, c'est un truc qu'on pilote pas, on s'en fout. Et ce qu'on veut, c'est parler à ces gens pour en faire soit des acheteurs de bouteilles, soit des futurs acheteurs de cadeaux, soit même encore mieux des abonnés.
Mais et là, c'est pas du churn, c'est plutôt des leads qualifiés que vous avez. Voilà, voilà.
Exactement. Après, on a les gens qui ont choisi une durée. Donc ça, c'est pareil. Le churn, je crois qu'il est de, il doit être entre 10 et 15% en gros sur toute la base de ces gens-là qui choisissent une durée. Donc quand tu choisis une durée, c'est pareil, c'est plus compliqué. Après, tu dis bah non, j'ai fait mes, oui, j'avais choisi 6 mois, j'ai fait mes 6 mois.
Donc je m'y tiens, ouais, m'y tiens.
Mais après, le churn sur la partie récurrente, donc nos meilleurs clients entre guillemets, les plus fans, les plus ambassadeurs, les plus tout ce que tu veux, ça, le churn, je l'ai pas comme ça, mais il est très faible dans le, ouais, dans le, ouais, dans le taux d'abonnement. C'est, on est dans des
la durée de vie moyenne d'un client abonnement,
c'est énorme,
énorme,
ouais. C'est en plusieurs années.
Ah, bah, ah ouais, carrément. Ouais. Si on revient sur l'acquisition, tu parlais des contenus tout à l'heure. Depuis le début, vous aviez cette culture de créer beaucoup de contenu pour éduquer le consommateur. Vous avez fait des tutos, des chaînes YouTube. Est-ce que justement, ça joue un rôle dans l'acquisition, tous ces contenus, en mode inbound marketing?
Non, parce qu'on est trop nuls.
Ah ouais?
Ouais, désolé pour mes équipes. Et
J'étais surpris. Je suis allé sur votre YouTube et j'ai trouvé les contenus hyper qualitatifs, mais les nombres des views...
Pas énormément d'engagement, ouais.
On est trop nuls. On est trop fort à créer du contenu, ouais, et on est trop nuls à diffuser le contenu.
Justement, en général, on crée du contenu pour ça.
C'est ouais, bah nous, non.
Sur le site, en face, ouais, tu as une agence qui peut t'accompagner sur cette partie-là.
C'est des sujets qu'on maîtrise un peu.
Non, on a toujours... mais ça va aussi. C'est hyper dans notre ADN. On pense qu'au client qui est déjà là. On veut lui produire du contenu le plus ouf possible. Et très honnêtement, on pense jamais à la diffusion. Donc, c'est bien évidemment que c'est un sujet qu'on a en tête.
Parce que c'est dommage, les contenus, il est vraiment qualitatif. Ouais, hein. Ouais, vraiment. Mais il est un peu caché.
Ouais, c'est vrai.
Sur le web. Bon, écoute, on n'est pas là pour
te rapprocher. Donc, ça ne joue pas du tout dans l'acquisition, mais d'accord, ça joue toujours pareil dans la feed.
Ouais, et puis dans l'image de la marque, ouais, sa crédibilité et compagnie.
D'ailleurs, la marque, en fait, on n'a pas encore évoqué. Le petit ballon, c'est quoi? Ça vient d'où, quoi, cette...
Une soirée bourrée, apparemment.
Alors ça, c'est très marrant. Donc, je me rappelle très bien. Et je suis tombé sur l'Excel où j'avais tous les noms que j'avais choisis pour le projet il y a presque 10 ans. Vraiment, c'est que des noms de merde. Ils étaient nuls. Et je savais bien, à chaque fois, je me disais, c'est con, parce que mon projet est cool, il faut que la marque soit cool, il faut que la communauté soit sympa, mais donc, il faut qu'elle soit fédérée aussi avec un nom, un peu sympa. Et j'en pouvais plus, je faisais des
appels. Tu peux nous donner des noms qui ont...
Mais non, parce que, non, ils sont trop mauvais, je veux même pas donner de mauvaises idées aux gens. Ouais, c'était nul. Et je faisais des apéros à la maison, des heures avec plein de potes qui, franchement, ils m'ont trop aidé. On a fait des concours Facebook, pareil, qui ont pas marché. Et un jour, un peu dépité, je vais à une soirée de potes de ma sœur, trop sympa. Il y avait un mec qui était mais dégommé.
Voilà.
Dégommé, je le connaissais pas du tout. Et il vient me voir, il me dit, tu sais, j'ai entendu que tu cherchais un nom pour ton projet. Tu sais que j'ai ton nom. Je lui dis, ouais, ça m'étonnerait vu ton état, mec. Et il me dit, il faut que ça s'appelle le petit ballon.
Non.
Là, je le regarde, je lui dis, mais mec, t'es un génie.
Il paye des royalties,
nous. T'es un génie. Eh ben, j'ai essayé, je lui ai proposé de prendre des parts. Un abonnement à vie, quoi.
Pour le remercier.
Il était trop sympa.
Il se souvenait pas, en fait.
Il s'en souvenait, je l'ai revu après, vraiment, je le remercie encore, Nicolas, trop sympa. Ce soir-là, bah, il était bien en forme, mais il m'a beaucoup aidé, en tout cas.
Toi, c'était une évidence tout de suite.
Évidence, mais je suis reparti de la teuf. J'aurais dit, écoutez les gars, trop bien, j'ai trouvé mon nom, allez, c'est parti, je vais... et tout a vraiment commencé là, parce qu'il me fallait un nom, même pour, je sais pas, pour me fédérer, limite, ouais, pour moi tout seul, quoi.
Bien sûr.
Donc c'était parti.
Et est-ce que on a vu aussi, vous avez lancé récemment, je sais pas, il y a un an en plus, un partenariat avec Monoprix.
Ouais, trop bien. Alors, c'est avec Monop. Ouais.
Ça a été quand? C'est début d'année, ça? C'est l'année dernière?
Ça fait longtemps qu'on discute avec eux. Je pense que ça fait 2 ans et demi qu'on discute avec eux. C'est dans leur magasin. Donc, c'est plutôt long à mettre en place.
Bien sûr.
C'est Olivier Rigaud, là, le DG de Monop, qui est un mec super bien. Qui a des Monop. Donc, les Monop, c'est petits monoprix, en gros, qui sont plus dans les centres, qui font aussi pas mal de trucs de bouffe et de vin. Ils ont souvent des rayons assez cool de vin, ils savent pas trop comment le vendre. Et donc, ils ont décidé d'utiliser les codes du Petit Ballon, parce que ce qu'on n'a pas dit, en fait, c'est que le vrai business du Petit Ballon, c'est de faire simplifier cette découverte de vin. Mmh. Et donc, on a créé plein de trucs, on a créé un nouveau classement de vin. Donc, on classe pas les vins par appellation ou cépage ou des trucs comme ça qui nous paraissent pas le plus pertinent, mais on classe les vins par goût.
C'est des profils œnologiques.
Exactement, exactement.
Tu peux nous expliquer ça?
Ouais, c'est intéressant ça, si on peut faire une pause là-dessus.
Bien sûr, ouais. Arrêter là-dessus. Ce qui nous... en fait, toi, je sais pas quel vin t'aimes, mais il faut que j'arrive, avec l'abonnement, avec toute la donnée collectée sur le Petit Ballon, à établir un vrai profil pour toi. Et moi, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'à la fin, je peux te dire que t'aimes tel type de vin, tel type de vin, tel type de vin, et je vais te donner 2-3 astuces pour que tu puisses à chaque fois trouver le type de vin que t'aimes. Quand t'es au resto, je vais te donner une petite phrase choc à dire au mec, tu vois, pour trouver le truc. Mm-hmm. Quand t'es au supermarché, je vais te dire où chercher. Quand t'es chez le caviste, pareil, je vais te donner un peu des tips pour que tu puisses lui donner tes goûts, parce que c'est très très compliqué de savoir ce qu'on aime aussi.
Mais comment tu fais? J'ai rempli un questionnaire en fait. Sur
ouais, t'as un petit questionnaire de 6 questions qui a rien à voir avec le vin, et après c'est beaucoup de données collectées on-site sur le site, en fonction des avis que tu donnes au vin que t'as reçu, dégusté, etc. Tu mets des petites étoiles comme partout presque. Voilà. Et ensuite de ce que tu rachètes. Est-ce que tu as donc à la fin, je peux te dire ah ouais, en fait, je vois bien ce que t'aimes.
Donc il y a quand même un petit algorithme qui tourne et qui permet.
En fait, on est une boîte hyper data. Ouais, on le voit pas du tout, mais le cœur du réacteur, c'est la donnée chez nous.
Donc, tu connais les goûts de tes clients et tu peux orienter les choix.
Bien sûr. Et quand j'ai une méga bouteille qui rentre, je vais l'envoyer qu'à ce petit segment parce que c'est un segment qui va être trop content de le recevoir, parce qu'il se dit mortel, ils savent ce que j'aime. C'est comme si j'étais son petit génie un peu caviste qui était toujours là pour l'aider.
Du coup, t'as une super conversion.
Ouais, forcément. Ouais, donc nos boutiques sont classées comme ça. T'arrives et les on a des profils qui s'appellent les canailles, les chardonnays,
tu peux donner des exemples pour nos auditeurs, c'est quoi? C'est
ouais, bien sûr. Bah tu peux avoir un vin de la Loire, un vin du Rhône et un Bordeaux qui sont dans la même étagère.
Mmh. Et ils ont les mêmes caractéristiques.
Ouais, exactement.
Donc, ils sont les caractéristiques. Par exemple, la joie sur les rouges, ça peut être canaille, charnu, robuste.
Canaille, c'est quoi un vin canaille? Ouais.
Un vin canaille, c'est canaille, charnu, robuste. C'est plutôt un peu dans l'intensité des vins. Plus tu vas vers le robuste,
du léger,
et solide, beaucoup de goût. Mmh. Il fait un peu plus un vin plus de rugbyman, comme ça, tu vois. Et le canaille, c'est plus léger, plus pour l'apéro, plus des trucs un peu faciles à boire, mais qui ont aussi quand même beaucoup de goût, mais qui sont moins puissants, des trucs. Mmh. Donc on a tout un truc, on classe les vins par 1000 trucs, la minéralité pour les blancs, le tanin pour les rouges, la puissance, les goûts, même le bois, les choses comme ça, tu vois.
Ça, c'est Jean-Michel qui t'a aidé à...
Ouais, Jean-Michel et Yannick, notre CTO, qui est hyper donné.
Ouais.
Et donc, il essaye d'informatiser un peu Jean-Michel.
Ouais. Tu vois, il lui dit... Alors, Jean-Michel, il a créé ses grandes catégories. Ouais, et exactement. Ensuite, évidemment, vous avez un peu structuré le truc. Ouais. À la fois en data et même aussi en merchandising dans les
boutiques. Bien sûr. Et donc, Olivier Rego, ce DG de Monop, il arrive dans la boutique, il dit, wow, mortel, votre truc.
Je veux ça chez Monop.
Ouais.
Donc, c'est quoi? C'est des corners?
C'est des corners, donc il m'a envoyé un message sur LinkedIn, je viens de passer dans votre boutique du 15e, je trouve ça ouf, on se voit, on l'a vu, et on est en test dans 5 monop.
Ah quand même.
Et donc ils ont le même classement, il y a la marque du Petit Ballon, il y a pas mal de nos vins.
Sourcing fait par vous, par eux?
Les deux. Mais sauf que c'est nous qui choisissons, il y a des vins, on dit ça va dans l'ADN du Petit Ballon, on le prend, ça ne va pas, etc. D'accord. Donc c'est hyper bien, c'est en test, c'est assez long à mettre en place, mais pour l'instant il y a plutôt des très bons résultats.
Et pour vous c'est une super visibilité.
Ouais, c'est trop bien, Monop on adore la marque, elle fit vachement avec le Petit Ballon, donc.
Pareil, ça fait de l'acquisition, c'est cool.
Mm. Et on parlait donc des profils œnologiques, si on revient un peu sur les produits, sur les vins, on a parlé un peu de la sélection, des critères, surtout la qualité, et la relation avec les vignerons, en fait. Ça, ce serait intéressant de comprendre un peu ça, comment ça se passe.
Elle est ouf.
Vous bossez en direct?
En direct. Ouais. Ils font partie de la famille du Petit Ballon, exactement comme les clients. On peut pas vivre sans eux. Les boîtes du web dans le vin se sont souvent engueulées avec les vignerons parce que il y avait moins de respect du prix. C'est souvent, ah putain, en fait, il me reste 17 bouteilles de ce stock là, il faut que je le brade, et donc
ils font des discounts,
ouais. Ils font des discounts, et le discount ça, 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 ça
les vignerons, valeur, bien sûr.
Les vignerons, c'est il y a tout, mais c'est quand même des gens qui travaillent la terre, qui ils ont pas forcément fait un MBA marketing de je sais pas quoi, c'est un taf de ouf, donc il faut respecter leur produit, respecter leur prix, quand ils travaillent bien, les mettre en avant le plus possible, et donc ça c'est vraiment le boulot du petit ballon. Mmh. Donc c'est voilà, ils font partie de notre triptyque. Je pense que 100% des vignerons qui ont travaillé avec nous sont hyper contents. On paye vite, le plus vite possible. Ouais, voilà, on est vraiment dans le respect du produit, parce qu'on sait très bien que c'est sur des relations long terme que ça va aussi marcher.
Mais comment vous gérez les volumes, parce qu'aujourd'hui vous faites un volume qui est très important par rapport surtout au début, et bah les vignerons, pas tous vont pouvoir suivre en volume. Est-ce que tu dois aller vers des vignerons plus avec des productions plus industrielles entre guillemets, comment vous gérez pour garder la qualité et les volumes?
Alors il y a des vins, il y a des vignerons avec lesquels on travaille qui font du volume. Mmh. Mais toujours pareil, le point numéro un du petit ballon, c'est la qualité. Si le vin il est pas bon, bah on va pas le prendre. Si le vin est trop bon et ils font des volumes, on va pas se dire oh non,
il a des volumes,
on va
bien.
Pas le prendre. Mais en revanche, il y a très très peu de gens qui peuvent suivre avec le nombre d'abonnés qu'on a. Mmh. Et donc ce qu'on fait, et grâce au profil œnologique aussi, c'est qu'on segmente les gens.
Ah,
tu vas pas forcément recevoir la même bouteille
que petit ballon n'est pas identique pour tous les abonnés.
Ouais.
C'est ça qui est aussi la force de
même sur la même catégorie de box. Exactement. Alors la box, même 100% bio, deux abonnés peuvent avoir des box un peu différentes.
Alors 100% bio, non, mais par exemple sur les gros trucages de raisin et bellage, qui sont nos deux best-sellers, même si le bio est en train de prendre une part de ouf.
On va y revenir.
Ouais, t'as des vraies spécificités.
D'accord. Donc deux abonnés à la même box peuvent recevoir des vins différents.
Ouais, je crois qu'il y a, je sais pas si c'est un secret du petit ballon ou pas, mais en tout cas, je crois qu'il y a 6 ou 7 packs différents. Donc t'as une chance.
Ah, je savais pas du tout. D'accord. Ouais. Moi, je pensais que c'était la même offre pour tout le monde.
Non, et ça nous permet justement de dire, toi, je vois bien que t'aimes pas.
Tu peux segmenter en fonction des profils et des
travailler avec des vignerons
de plus petite taille.
Et les gens peuvent le choisir aussi. On leur laisse 10 jours pour choisir un truc.
C'est un peu comme Poskai, là, tu peux un peu choisir.
Exactement.
Ah, t'envoies un mail à tes abonnés avant la livraison pour pouvoir parler.
Exactement.
C'est cool.
Dans ton dashboard abonné.
Là, tu peux piloter. Et ça te fait des données aussi qui viennent nourrir l'intelligence.
Exactement. Ouais, tout à fait.
C'est clair qu'il y a
c'est top, bien vu. Et tu parlais des mix vin bio,
vin conventionnel.
Différentes box. Comment ça s'organise en fait?
Alors nous, ce qu'on aime toujours pareil, c'est quand le vin est bien travaillé. Donc on veut qu'il y ait un respect de la terre, on veut qu'il y ait un respect du produit, on veut pas que ce soit sulfaté de trucs dégueulasses. Donc ce qu'on aime aussi, ça fait partie de notre processus de sélection, c'est que ce soit environnementally friendly, tu vois. Et ça, c'est très important. Donc, on ne prend pas que des vins bio ou que des vins nature ou des trucs comme ça. En revanche, il y a plein d'autres, comment on appelle ça, sigle ou je sais pas quoi, tu vois, macaron sur bio ou label.
Ouais. Oui, des métères,
exactement. Il y a aussi juste agriculture raisonnée, il y a des trucs comme ça. Donc, c'est un point aussi hyper important pour le petit ballon, de faire attention à ce que les gens aussi vont boire. Mais on voit bien que par exemple la part du bio, c'était un truc qu'on a monté il y a 2 ans, ça a une croissance qui est pas du tout la même que nos formules conventionnelles. C'est en train de prendre
un point aujourd'hui sur
Aujourd'hui, ça doit peser sur nos abonnés, je sais pas, je dirais 30% des abos, mais je pense que dans très très peu de temps, ça va être 50%.
Assez vite.
Donc là, on va un peu plus loin avec le nature. Le nature, c'est très très compliqué à travailler, parce que déjà, il y a pas un label nature.
Oui.
Il y a aucune classification, il y a aucun tampon. Vin nature.
Les volumes sont plus petits, mais de toute façon, au début, chez vous, l'abonnement nature
est
petit, donc c'est
exactement.
C'est plus niche.
C'est une demande des consommateurs de.
Exactement. Ouais.
Tu sais que moi, juste par l'anecdote, j'étais client Petit Ballon en 2012, quoi, au tout début.
Oui, t'es parti.
En parlant passé. Oulala.
Il y a
un malaise.
Je suis parti parce que justement, j'ai découvert les vins nature à l'époque et bon, voilà, c'était pas ce que je voulais. Et aussi, j'aime bien les vins, j'aime bien sourcer mes propres vins. Mais je suis peut-être tenté de retester Petit Ballon avec les vins nature.
Ça va sortir.
De toutes les façons, tu vas te faire targeter.
Ça, c'est clair.
C'est clair.
Je vais pas vous lâcher.
Et les vins nature, alors c'est une demande, c'est des clients qui disaient, écoute, vous allez pas faire un peu de vin nature?
Ouais, exactement.
Parce qu'on voit que la demande, elle explose, surtout à Paris au moins.
C'est une demande de nos clients et c'est aussi un bon travail des producteurs. Les producteurs avec lesquels on travaille depuis longtemps, ils nous disent, bah tiens, on sort ça, on l'a goûté, on trouve ça hyper bon et on se dit, bah aussi, donc on va faire matcher et la demande des clients et la nouvelle production des vignerons.
Bah top, super.
Parle un peu des vins primeurs. On a vu que tu t'avais lancé une offre vins primeurs assez récemment. Déjà pourquoi et comment ça marche?
Alors voilà un projet qui a rien à voir avec l'ADN du Petit Ballon. Le primeur, ça va à l'encontre de tout le Petit Ballon. Mais pareil, c'est une demande des clients. Mmh. En fait, les clients nous disent, écoutez les gars, donc on a des clients qui sont là depuis 10 ans. Donc ils avaient, je sais pas, peut-être 30 ans, peut-être 40. Ils ont quand même 10 ans de plus. Et donc ils disent, ça fait 10 ans que je suis avec vous, en fait, ce que j'aime, c'est acheter des vins chez vous. En revanche, faut que vous m'envoyiez un peu plus de choix. Arrêtez de m'envoyer vos découvertes. Je veux aussi mes grands Bordeaux, même si Bordeaux c'est assez dur en ce moment. Mais voilà, je veux acheter du vin que chez vous. Donc il me faut une plus grosse sélection, un plus gros choix.
Ouais, ils veulent faire leur stock, ils
exactement.
Veulent faire leur cave.
Mmh. Ouais. Et les primeurs, il y a plein de gens qui nous l'ont demandé, donc ils disent, j'ai évolué avec vous, maintenant ce que j'aime, comme toi, tu vois, c'est sourcer mes vins, c'est et aussi faire des trucs de primeurs. Donc on a eu beaucoup de demandes et on le fait. Ça représente un chiffre d'affaires qui est assez cool, mais c'est en centaines de milliers d'euros. Et les clients sont très contents. Ceux qui veulent le font et ceux qui aiment pas se disent pas, ah non, le Petit Ballon fait les primeurs, ça fait yesh, je m'en vais.
Ouais. Pas gros risque.
Ouais.
Et on a évoqué, Philibert t'a posé la question par rapport à la logistique, les stockages au début de l'aventure, mais les volumes, ils ont évolué. Comment vous gérez ça aujourd'hui? Combien de bouteilles déjà ça tourne par mois? Où vous les stockez? Comment vous gérez la logistique?
Oh là là, combien de bouteilles? Je sais pas, c'est faramineux.
Mmh. C'est précis.
C'est des centaines, des milliers.
L'ordre de grandeur, ouais.
Des millions de bouteilles par mois?
Non, des millions, non. Ça doit être, je sais pas. Je vous ai dit que j'étais mauvais en chiffres, hein.
Oui. Ouais, bah voilà, il fallait inviter le CEO, Daniel.
Je vous ai pas menti.
J'ai trompé, pardon.
Allez.
Mais il parle bien, ça va.
Ah, non, jusqu'à maintenant, ça va. Mais là, je pense que dans les chiffres.
Allez,
ça va aller beaucoup plus vite.
200 000. Non, allez, 200 000. Non, mais on franchement.
On va voir Clément.
Ouais, je vous enverrai.
Mais vous y stockez ça où, en fait?
C'est à Évreux, toujours pareil.
C'est toujours pareil. Logistique.
Bah, il est content, là, parce que là, tu.
Ah, bah, bien sûr. Ah, mais il a parié sur nous et on est content d'arriver au chiffre qu'on lui avait promis, même si c'était un peu plus tard. En fait, on est hyper, ouais, on a ces relations aussi avec les fournisseurs.
Et, j'ai une question, c'est curiosité absolue. Est-ce que vous faites vieillir du vin, en fait, ou pas du tout? C'est pas votre but de garder une partie des vins, de faire vieillir et...
Ah, ça va complètement à l'encontre des Petits Ballons. Nous, ce qu'on aime, c'est boire du vin. Oui. Ce qui est important, c'est le moment présent.
Ouais, vous l'achetez à maturité, enfin,
on l'achète au millésime où on va le vendre.
D'accord.
On n'est pas des vieillisseurs de vin, on sait pas faire.
Pas des vrais caves.
Non, toujours pareil. On est dans le plaisir du vin. Le plaisir du vin, c'est le boire. Ça, c'est mon père qui m'a toujours dit ça. Il me dit, t'as une bonne bouteille, la laisse pas dans ta cave pendant 10 ans. Quand t'as des bons potes, tu la sors et tu la bois. Moi,
je sais
trop bien.
On a fait un podcast il y a quelques mois avec les deux sommeliers de la Tour d'Argent.
Ah, trop bien.
Ouais. C'était toute une autre histoire.
Il faut que tu l'écoutes.
Ah, trop bien.
C'est autre chose.
Parce que là, il nous parlait des bouteilles qui ont vieilli pendant 80 ans dans leur cave, qui est
une des plus belles réserves à Paris.
Ouais, c'est ouf.
Là, on est dans les sujets d'organisation. Il y a un sujet sur lequel on a tilté. C'est, on a vu que le siège aujourd'hui était à Barcelone, siège du Petit Ballon.
Alors, c'est faux. C'est pas le siège.
Le siège à Paris. En tout cas, il y a des bureaux à Barcelone. Ouais. Tu peux nous expliquer pourquoi, comment vous vous organisez aujourd'hui entre Barcelone et Paris, enfin, Paris et la France.
Pourquoi, le plaisir. Moi, j'étais avec
c'est un kiff.
C'est mon kiff.
Business, c'est orienté par. Logique business ou c'est un kiff perso?
Non, on n'a aucune orientation business. Non.
A priori, il n'y a pas de business aujourd'hui en Espagne.
Non. Je venais de connaître ma future femme, pardon, et on a envie de changer de Paris. Moi, ça faisait 11 ans que j'habitais à Paris.
Mais elle est parisienne.
Non,
elle est catalane.
Montauban, à côté de Toulouse.
Ah, d'accord.
Je salue tous les Montalbanais. Et donc, on se se dit on a envie d'un truc, je sais pas, une vie un peu plus de province, un truc un peu plus cool.
petite ville.
elle voulait pas, moi je voulais pas retourner à Lyon, elle voulait pas retourner dans le coin de Toulouse, je sais pas quoi. Et franchement, je sais pas comment, on a dit Barcelone.
Tu parlais espagnol déjà?
Pas du tout, je parlais pas un mot, c'était l'enfer. Et donc, elle me regarde, mais Barcelone, mortel. Je pense très honnêtement qu'un mois après, on est parti à Barcelone. On ne connaissait pas la ville. Moi, j'étais allé deux fois.
Et tu avais une boîte en France, quoi.
J'avais une boîte en
France. C'est là où t'es fort, c'est que surtout t'as déménagé tes bureaux, quoi. Les équipes,
ils ont suivi. Non, c'était trop bien.
Bon, après c'est pas dur.
C'est sexy, ouais, c'est clair. Ils ont.
Ouais, et ça reste, c'est une grande ville. Il y a du soleil, les gens sont trop sympas. Je pourrais plus quitter Barcelone, hein. J'aime trop.
Mais Jean-Michel, il est resté à Paris quand même.
Ouais, Jean-Michel, après, il avait pas le même âge, il était quand même bien installé. Et donc, l'équipe vin, tous ceux qui s'occupent des vins et des boutiques sont à Paris.
C'est
à
France.
Et à peu près tous les autres sont à Barcelone.
D'accord.
Et pourquoi pas avoir attaqué, genre, les marchés espagnols, parce que vous aviez déjà un pied.
Parce qu'on est nul à l'international, hein. Il faut pas.
Bah, ça j'ai compris, ouais.
Il faut connaître, là, nos avantages, nos inconvénients. Non, le marché est différent, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait, voilà. Nous, notre intérêt, c'est de, notre mission, elle est aujourd'hui, très portée pour le marché français. On se dit qu'il y a une place énorme à prendre. On trouve que les acteurs de vente de vin en ligne sont plutôt pas modernes, et donc plus on apporte de l'innovation, plus on apporte de la jeunesse, de l'agilité dans ces projets, plus on peut prendre aussi une part importante de cette vente. Et donc voilà, notre mission, c'est de devenir le numéro un de vente de vin en ligne en France.
En France, ouais. Bah ça tombe bien, parce qu'en fait vous êtes associé avec Vente Privée en 2017, qui est aujourd'hui les, je crois, hein, je suis pas sûr, tu me diras, c'est pas le cas, les plus grands acteurs du vin en ligne.
Exactement.
Ouais.
Rencontre pareille, improbable, dans un salon à Marseille, avec les équipes vin et nos équipes vin. En fait,
c'est 2017, ça, 2000.
Ouais, alors la rencontre, c'est un an avant, je pense.
D'accord.
Et on se rend compte qu'on a exactement le même projet, la même vision. C'est trop bien, il faudrait qu'on parle, voir ce qu'on peut faire. Finalement, à force de discuter, il y a un vrai match entre nos différentes équipes, et Vente Privée nous propose de rentrer au capital. Et Vente Privée, effectivement, c'est le plus gros vendeur de vin en France avec Cdiscount.
Ah d'accord, c'est les deux, ils se battent.
Ouais, exactement, on sait jamais qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, mais bon, c'est eux deux, les gars, ce qui a aucun sens, en fait.
Bien sûr.
C'est, que ce soit quelqu'un de non spécialiste, finalement, qui soit.
C'est ouf, quand j'ai appris ça, je voulais pas croire. C'est dingue.
Et donc, d'ailleurs, la stratégie de Vente Privée, ils s'appellent les multispécialistes. Ils veulent plus être un site généraliste, parce que je tombe pas con, et donc ils se servent d'acteurs comme nous, voilà, pour les aider, etc.
Mais ils ont pris une part majoritaire dans la boîte, mais pas sans vous intégrer au sein des Ventes Privées.
Non,
c'est assez indépendant.
On est resté hyper indépendant dans nos décisions. Ils nous laissent faire à peu près, même ils nous laissent faire ce qu'on veut. Il y a une très bonne relation, mais il y a pas un vrai match dans nos deux marques. C'est très très compliqué,
oui,
de faire venir des trucs du petit ballon sur Vente Privée, parce que les gens de VP ne cherchent des trucs très VP, et sur le petit ballon ils cherchent des trucs très petit ballon, et donc voilà.
Et t'as pas profité, parce que c'est ce qu'on se dit, c'est que dans le rapprochement tu profites, enfin, je sais pas quel est le nombre d'abonnés, mais ça se compte en millions, 50 millions, 30 millions, t'as pas profité de cette communauté extraordinaire de VP, forcément.
Si, mais pas
tant que ça.
Non.
Écoute,
non, pas du tout. Et ils nous l'avaient plutôt dit. Ils nous ont jamais vendu un truc. Branchez-vous ça va être la folie. Mais parce que voilà, c'est deux gens, pas des populations différentes, parce que je suis sûr qu'il y a plein de
croisements. Ouais.
De croisements, mais c'est tu vas sur VP pour faire un truc bien précis. Tu vas sur le petit ballon pour faire un truc bien précis, et ça a rien à voir les deux.
Donc là, le deal, c'est qu'il t'amène du capital, parce qu'à ce moment-là, vous étiez certainement en recherche de capitaux pour...
du capital, du savoir-faire logistique,
ouais,
typiquement, et beaucoup d'aide, en fait, entre les équipes. On se parle beaucoup, les équipes techniques sur la donnée, les équipes vins, les équipes logistiques. Voilà, c'est comme si on avait un conseiller, un espèce d'hyper grand groupe, qui plein d'experts qui sont aussi là pour nous aider.
Et qu'est-ce qu'apporte Petit Ballon à Vente Privée? dans l'autre sens.
Bah, tu vois, ils ont essayé de mettre en place nos profils, notre classement.
Ouais, pour leur
ouais. Sur leur vente à eux de
ouais.
Vente.
Ouais. Mais on a essayé, en fait, les gens, t'arrives sur vente privée, tu dis, OK, il y a une vente de vin, bim, je veux un Bordeaux, Saint-Émilion, tu sais exactement, en
fait. Ils achètent les marques, là, bon.
Ouais.
Ils achètent les marques, donc les domaines dans les mains.
Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on s'est rendu compte que ça allait pas marcher. On s'en est rendu compte assez vite, donc on a ni eux, ni nous, perdu beaucoup de temps. Voilà, c'est une relation très cool, où chacun vit un peu sa vie.
Ce qui est intéressant, c'est que même les clients, ils se rendent pas compte. En fait, on a une question sur Instagram des Diane qui nous dit, ils sont très présents sur les sites des ventes privées. Pourquoi ces choix?
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, ouais. Parce que c'est la perception que, des consommateurs, ils voient pas Petit Ballon comme étant partie du groupe ventes privées.
Exactement.
Quoi.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on l'affiche pas non plus. On n'a pas envie de. Enfin, c'est pas une envie ou pas, mais on a notre marque, ils ont leur marque. Si tu t'intéresses au truc un peu corporate, bien évidemment t'as vu passer l'info. Si ça t'intéresse pas, tu t'en fous.
C'est pas dans le milieu, tu t'intéresses pas. Ouais. Et on se pose la question. Ils ont racheté, ils sont en actionnaire majoritaire. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas vouloir acheter la totalité des Petits Ballons? Quel est le deal que vous avez mis en place?
C'est une histoire à construire.
D'accord.
Une histoire à construire en fonction de ce qui se passe chez eux, en fonction de ce qui se passe chez nous. Et c'est nous on parle directement à Jacques-Antoine Grandjean qui nous aide vachement et qui prend beaucoup de temps.
Lui, il aime bien les vins, il aime bien la bouffe, il aime bien les vins, non?
Ouais, je crois qu'il aime tout. Moi. ouais, c'est et surtout il aime l'entrepreneuriat.
Ouais.
Et donc ça c'est hyper cool.
Et donc il y a pas de calendrier quoi, il y a pas des dates prévues par la
Pas du tout, c'est ça marche, on fait quelque chose, ça marche pas, on trouve que voilà, c'est ouais. À voir la suite de l'histoire.
Ok, on fera un petit podcast update d'ici quelques années.
Ah, mais vous prendrez le CEO cette fois.
Les deux en binôme, ça peut
être vous parler de chiffres.
Justement, là, on arrive à la partie qui va être un peu plus douloureuse pour toi. Il y a un peu plus de chiffres, on adore ça.
J'en maîtrise deux, trois quand même.
On se dit que
marge brute, tu connais.
Oui. Ne parlez pas de marge, les gars.
Nombre d'abonnés aujourd'hui.
Nombre d'abonnés, à peu près 100 000.
5000 abonnés, ah, c'est énorme. Entre les bio,
tout confondu,
etc. Ouais. Les bouteilles expédiées par mois, bon, une centaine des milliers, quoi, on va dire, dans ces fourchettes-là.
Ouais. Mais je vous donnerai le chiffre exact.
On mettra ça en commentaire après. Et les chiffres d'affaires, on avait vu presque 18 millions en 2019. 2020.
Presque 20 millions en 2020.
D'accord. On aura des questions Covid après pour voir l'impact. Ouais. Mais vous avez une croissance qui est pas dégueulasse, quoi, de 10% une année sur l'autre.
On est hyper content.
Une belle croissance.
On s'est jamais considéré comme une start-up même. La start-up.
Même au début.
Non. J'aime bien le côté start-up, un peu bordel, un peu agile, un peu tout ça. Ça, j'adore. Ouais. Et j'aime moins parce que dans notre milieu, c'est beaucoup plus compliqué. Le côté levée de fonds de ouf, j'embauche 1000 personnes, je brûle tout mon cash et j'essaie de faire une croissance de ma boule. Nous, dans le vin, ça marche pas comme ça.
Bien sûr.
Parce que on a toujours, nous, vu le Petit Ballon comme une entreprise qui fonctionne, qui peut payer ses gars à la fin du mois, qui doit faire un résultat positif, etc. Donc, on ne peut pas aller chercher non plus une croissance de 1000% par an sans brûler un peu d'argent.
C'est clair.
Et voilà.
On finit par mal dépenser l'argent.
C'est ça. Donc, on a toujours été assez précis dans ce qu'on faisait. Une croissance qu'on pouvait subir. Mm-hmm. Et on est hyper content. Pour nous, une croissance de 10% maintenant à des niveaux de chiffre d'affaires au-dessus de 15 millions, on est hyper content. Après, là, on commence à trouver des petits gisements qui pourraient nous faire aussi un peu plus de croissance.
Genre?
Genre le e-commerce, ça devient un truc important chez nous.
D'accord. La vente en direct.
Sans abonnement.
Ouais, grave.
Et d'ailleurs, ça représente quoi, en fait, si tu répartis un abonnement, carte cadeau et e-commerce?
On a fait la clôture du semestre 1, là, fin juin. C'est quasi 33%,
33%. Ah, c'est beau, ça.
C'est ça. Ouais, ça, c'est cool. On est hyper contents. En fait, le e-shop commence à prendre une belle part.
D'accord.
Et on a mis très longtemps à savoir comment faire, quelle était notre valeur ajoutée, etc.
Moi, j'ai personnellement appris la partie e-shop de Petit Ballon récemment, parce que dans ma tête, c'était l'abonnement. Exactement. l'abonnement.
Ouais. Je pense que les gens ont cette image que de l'abonnement. Maintenant, on est un endroit où tu découvres le vin hyper facilement.
Super. Et du coup, quel pourcentage entre les blancs et les rouges, vous êtes plutôt rouge parce que la consommation en France est le plus axée sur les rouges ou ouais, blanc, a... bulle, comment ça se répartit?
Si je dis pas de conneries, la consommation du vin en France, c'est majoritairement rouge, deuxième rosé et troisième blanc.
Un rosé, c'est plus grand que
blanc. Ouais, ça devient énorme. Ouais.
Mais c'est très saisonnier, forcément.
Oui, mais ça l'est vachement moins. En fait, avant, c'était que l'été. Maintenant, les gens, ils boivent de rosé toute l'année. Ouais. Donc, bien évidemment, il y a des pics pendant les mois de mai jusqu'à septembre, mais c'est vachement plus lissé. Nous, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le cas aujourd'hui. On fait du rosé. On est très très saison en rosé. On fait. Je suis presque sûr qu'on fait majoritairement du rouge, numéro 2 du blanc et numéro 3 du rosé.
Du rosé. Ouais. Ok. Et les bio, tu disais, ça prend une importance.
Ouais, grave. Les gens font encore plus gaffe avec le Covid. On regarde encore plus ce qu'il y a derrière les étiquettes. Mais ça, on l'avait. Nous, on est comme ça aussi. On aime les vignerons qui travaillent bien leur terre. Donc, ça fait très longtemps qu'on essaie de chercher des produits qui sont bien travaillés.
Et la question qui t'a posé Marc il y a quelques années, on te la répose. C'est quoi la marge brute? C'est quoi la rentabilité du petit baron?
T'as bossé le truc depuis, non?
je suis toujours assez nul.
Fais gaffe parce que Marc nous écoute en plus. C'est vrai. Il réagit souvent à nos épisodes.
Ah, bien sûr. Franchement, je vais pas vous dire de conneries. Je n'en sais rien.
Il y a une question du public là. C'est Mr. Nothing sur Instagram qui nous demande, c'est l'abonnement ou l'activité des cavistes la plus rentable?
Ah, c'est l'abonnement mille fois. Ouais. L'activité des cavistes, nous, on est un caviste un peu bizarre parce qu'on fait les marges du e-shop. Donc, c'est-à-dire qu'on fait pas du tout des marges de caviste. Donc, on fait beaucoup moins de marges qu'un caviste
physique.
Physique.
C'est plutôt des coef 1-8-2. Ouais.
Ouais, exactement. En mettant beaucoup de monde, on a au moins toujours deux personnes, nous, alors qu'un caviste, c'est souvent une personne. Mm-hmm. Donc, c'est plutôt un poste de coût. Notre poste de caviste et c'est un poste aussi de kiff. C'est si on veut bien recevoir les gens, il faut que l'omnicanalité nous oblige entre guillemets d'avoir les mêmes prix.
C'est un outil d'acquisition, c'est un outil de notoriété.
C'est hyper différent. Donc on a en fait nos boutiques, on n'a pas un business de boutique, on a un business omnicanal.
Tu regardes pas le PNL de la boutique en propre, pas les rentabilités par un business.
Ouais. Et une dernière curiosité, en fait, c'est pas, j'ai regardé sur l'offre, en fait, il y a des vins qui viennent de l'Afrique du Sud, il y a des vins espagnols. Quel est le pourcentage des vins français et des vins étrangers dans l'offre?
Alors pareil, je sais pas, mais on a beaucoup de vins étrangers. C'est pas du tout la majorité, ça c'est sûr. Mais les gens adorent ça. Les gens adorent ça. Notre vin d'Afrique du Sud, il cartonne. Ouais, le vin du Chili.
Parce que j'ai lu partout vos supports des coms, c'est les lions là.
Ouais, parce que la bouteille elle est cool. C'est nous qui l'avons faite.
C'est vous qui l'avez fait. Je vois une vidéo là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que vous avez bossé avec le viticulteur pour.
Ouais, on fait beaucoup ça.
Pour définir l'assemblage. L'assemblage.
Ouais.
Ah, vous allez loin quand même.
Ouais, grave, on adore faire ça.
Vous faites souvent, c'est exceptionnel.
On fait pas mal, on a pas mal de cuvées. Je sais pas, je dirais qu'on a 25 cuvées, 30.
Super intéressant.
Et c'est trop bien parce que toujours pareil, avec la data qu'on collecte, on sait à peu près ce que les gens aiment. Donc on pilote mieux l'assemblage. Eh ouais, grave. C'est trop bien.
Sans pour autant brander petit ballon, quoi.
Non, parce que ça aurait pas d'intérêt.
C'est pas marqué, on est d'accord. C'est pas marqué, élaboré.
Non. Désolé, ça fait un peu. Parce que celui qui fait tout le boulot, c'est quand même celui qui va cultiver le raisin. C'est son terroir, c'est son raisin, c'est sa manière de travailler.
Mais vous intervenez dans l'assemblage, dans la vinification.
Et ils adorent ça, les vignerons. C'est trop bien. C'est un super moment entre les équipes vins et leurs équipes. Ils passent beaucoup de temps ensemble.
C'est un viticulteur en Afrique du Sud, c'est ça?
Exactement.
Et vous le faites aussi avec des viticulteurs français? Ils sont aussi ouverts à ça?
Mais bien sûr.
Ouais, pareil. Alors, okay. Il n'y a pas de différence.
Bourgogne, on fait Languedoc, on fait Bordeaux. Non, mais en fait, je pense que on balaye à peu près tout. On n'a pas fait de cuvée en Alsace, par exemple. Cuvée dans la Loire, ça m'étonnerait pas qu'on en ait fait. Non, c'est assez cool.
Pas fait de cuvée en Savoie, parce que t'as vu.
Savoie, j'en
avais pas parlé encore.
Ouais, mais vin de Savoie, c'est marrant, tu vois, on a fait une box Savoie.
J'ai vu que t'avais des vins assez sympas.
Ouais. C'est très compliqué.
Tu vois, c'est Gilbert Lioz en biodynamie, et des trucs cool.
Tu vois, pour moi, les deux régions assez dures à vendre, comme ça, mode pour point, c'est Alsace et Savoie. Tu vois,
ils sont méconnus.
Putain, ils sont des
hyper méconnus. Il y a des vraies pépites.
Mais bien évidemment,
évidemment pas objectif.
Toi, ouais, ça c'est clair, t'as l'air vraiment pas objectif. Mais non, mais bien sûr que c'est trop bien travaillé.
J'ai compris que t'étais lyonnais, donc t'es pas loin.
Ouais, on est pas loin, on aime bien la Savoie. Non.
Mais avec l'échauffement climatique, en plus, la Savoie, ça garde des vents plus frais que
mais bien sûr, non, mais c'est trop bien travaillé.
Bah, j'ai
mais
quand t'as il a l'attention.
Ouais, ça c'est clair, il a l'air bien chaud. Il a goûté ta cave.
Brésilien, savoyard.
On va faire un truc avec mes potes viticulteurs savoyards.
Non, mais c'est très compliqué à vendre. Et donc, justement, grâce à la box, comme on laisse quand même pas le choix, la personne ne choisit pas le vin qu'il va choisir.
Bien sûr.
Et donc, on lui envoie ce vin de Savoie. On lui dit, arrête-toi tout de suite avec tes préjugés. goûte-le. On t'envoie plein de contenu, plein de pédagogie pour que tu comprennes comment est travaillé ce vin de Savoie. À la fin, ils le goûtent et ils disent, ah bah ouais, super typiquement, le vin de Savoie, c'est le vin que j'aurais pas acheté, voilà. Ni chez le caviste, ni au supermarché, ni pris au resto.
Ça, c'est
et donc
clair.
Finalement, il adore ce truc et il se dit.
Et là, t'es cool. Dans ta mission de faire découvrir des vins, le rendre accessible.
Ouais.
C'est super. Bravo.
Et concurrents, en fait, qui sont les concurrents du Petit Ballon aujourd'hui? Au début, j'en sais rien. Il y a des gars qui ont arrêté leur activité parce que ça n'a pas marché. Comment tu vis avec ta concurrence?
Les concurrents. Belle histoire. Alors, toujours pareil, on a trois business différents. Ouais. L'abonnement, le cadeau et la vente de vin. Mmh. Donc, dans la vente de vin, c'est très facile. Les concurrents, c'est tous ceux qui vendent du vin en ligne et tous ceux qui vendent du vin hors ligne.
Bien sûr. Parce que tu as fait de l'omnicanal.
Exactement. Voilà. Donc, c'est hyper...
concurrentiel.
Hyper concurrentiel. Mais on est les meilleurs, bien sûr. Le cadeau, c'est... tous ceux qui vendent des cadeaux, la Fnac,
c'est marché, quoi.
C'est énorme. Donc nous on aime bien pareil avoir un gros ring de box avec des milliers de personnes. Et l'abonnement en revanche, ça c'est un truc où on est,
il y a moins de monde là,
plutôt seul.
Ouais.
Où tout le monde a essayé de venir nous rejoindre, ils se sont dit attends, c'est qui ces petits gars là qui se démerdent pas mal. On va faire pareil. Donc on a eu beaucoup de concurrents en box vin. Il y a eu des très bons trucs, il y a eu des trucs vraiment merdiques, mais voilà, ça c'est notre territoire.
Vous êtes leader.
Oui. Ah oui.
Clairement.
Pense, ouais, il y a même pas.
Le numéro 2.
Il y a même pas de numéro 2.
Non?
Ouais, je lisais un truc comme, notoriété spontanée, apparemment. Vous êtes juste derrière Nicolas, en fait, quand on, je sais pas où j'ai vu
ça.
Une
belle notoriété sur la marque.
Mais tu es très bien informé, on a fait un sondage Ipsos et.
Ah bah voilà, tu vois, j'accepte un truc, là.
Ah, exactement.
Ouais.
Donc, les gens pensent à nous en deuxième, c'est ouf.
Deuxième,
belle notoriété.
Voilà, c'est ouf.
Bravo.
Mais en revanche, quand même, je tiens à rétablir la vérité. Nicolas, en autorité spontanée, ils sont vraiment au-dessus.
Ah, c'est spontané, d'accord. Ouais. Spontané, ils sont au-dessus, mais assistés.
Assistés, quand tu cites, ils connaissent. Ils disent Petit Ballon.
Non, en spontané, on est deuxième.
Ouais. Avec un énorme,
avec un écart.
Donc, je veux bien, Nicolas, ils ont fait un très bon travail. Je vais les remettre aussi.
On est d'accord. Ils ont une présence. Je sais pas combien de boutiques ils ont en France.
Ouais, ça date, c'est historique.
Ouais, voilà, c'est pas pareil. D'ailleurs, ça serait un bon épisode.
Ouais, un très bon épisode. C'était des bons, on va trouver.
On va choper des infos pour
toi. Pas de contact.
On parle un peu d'actu avant de parler de la suite. Gros sujet d'actu, c'est la crise du Covid. Quel impact elle a eu sur le business du Petit Ballon pendant et après? Ça l'a boosté ou pas?
Ouais, alors.
Comme tous les acteurs e-commerce.
C'est pareil, on a eu un super boost sur la partie e-commerce abonnement.
Mm-hmm.
Un super déboost sur la partie cadeau. Ouais. Mais bon, on comprend. On a eu beaucoup de chance. On fait partie des entreprises qui ont profité de ce Covid pour faire de la croissance, pas mal de croissance. Encore plus sur la partie e-commerce, les gens.
En chiffres, je sais pas, la croissance, c'est combien de
temps? Sur la partie e-commerce, c'est presque à 100% de croissance.
Ouais, voilà.
Donc c'est énorme, en fait. Bah, tous les gens qui allaient justement chez leur caviste, supermarché, ils voulaient plus bouger de chez eux. Et donc, ils sont devenus des clients du e-commerce sur le Petit Ballon. Ouais. Ça nous fait des nouveaux gens à qui parler.
Ils sont restés. Enfin, ça c'est pendant le confinement et même maintenant.
Ils sont complètement restés. On pensait que
tu maintiens les niveaux de croissance.
Ouais, c'est ouf. Non, franchement, on n'est pas à 100%.
Oui.
Maintenant, mais on fait.
Mais t'en as gardé une bonne croissance.
Et surtout, on a une base plus grosse, des gens qui ont connu l'expérience du Petit Ballon et donc qui vont rester chez nous. C'est, on est hyper content pour les consommateurs et pour le Petit Ballon. En revanche, on n'est pas du tout content pour les vignerons qui ont vu tous les cafés, hôtels, restaurants fermés et donc ils ont beaucoup moins de distrib. Et alors là, je reparle de ces vins de Savoie et d'Alsace qui sont très très compliqués à vendre hors café, hôtel, restaurant, justement, qui sont des gros acheteurs de ces vins-là. Et donc eux, mais en fait, la filière s'ouvre grave. Je sais pas ce qui va se passer.
Surtout le petit vigneron indépendant.
Et nous, on essaie vraiment de les aider. On essaie de justement profiter de tous les effets positifs côté consommateur et côté entreprise pour le rebalancer aussi du côté vigneron, pour lui faire des commandes en avance, pour essayer de l'aider.
Qu'est-ce que vous avez mis en place, genre?
Beaucoup de commandes en avance. On lui dit ça. Je t'assure qu'on va te le prendre. On va essayer de te vider ton stock parce qu'ils ont des stocks pleins et donc là ils doivent vendanger, remettre dans leur cuve.
Pas des trésors pour la.
C'est des gens qui ont pas beaucoup de trésors. Ça va être un moment très très compliqué pour la
filière.
Beaucoup de vignerons.
Pour les petits surtout.
Tous ceux qui adoraient vendre au café, hôtel, restaurant, qui sont des super clients. Donc, on est très content de ce Covid et aussi très mécontent à cause de notre filière, parce que si notre filière va mal, tout le monde va mal.
C'est clair. Il y a toujours, nous, on a fait une édition spéciale pendant les confinements où on allait à la rencontre des acteurs de la bouffe.
Ah ouais, bien sûr.
Et on voyait, deux réalités différentes à chaque fois. Ceux qui souffraient beaucoup avec les confinements et d'autres qui
impactent
de la croissance. Parlons de la suite.
Bien sûr. Vas-y, Daniel.
On aime beaucoup parler de ta vision, de connaître ta vision pour les années à venir. Là, ça fait 9 ans que tu as lancé les petits ballons. C'est un beau cas de success story. Comment tu vois la suite? Quelle est ta vision pour les 5-10 années à venir?
C'est toujours pareil. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à faire en sorte que quand le client arrive sur les petits ballons, qu'il soit trop bien, ça veut dire qu'il soit en confiance. On n'est jamais en confiance avec le vin, et qu'il soit hyper guidé par plein d'outils différents et plein d'humains différents, toutes les possibilités. Il y en a qui adorent parler à des chatbots par exemple. Il y en a qui détestent ça, et dans le vin, donc c'est assez spécifique, il y en a qui adorent parce qu'ils peuvent tout dire au robot. Et ils ont pas honte de dire salut petit caviste, je connais rien, je suis une buse, je sais même pas ce que j'aime, etc. Donc ils commencent à parler au robot, et ensuite le robot dit maintenant on est allé assez loin tous les deux, je te ramène vers un humain, parce que le vin c'est hyper subjectif, même si on collecte beaucoup de données, même si je sais pas quoi, il y a l'humeur aussi de la personne qui joue vachement, il y a même la météo, il y a beaucoup de trucs qui prennent en compte. Donc ce que je veux, c'est que les gens arrivent sur le petit ballon et découvrent du vin de ouf, et découvrent tous les vins qu'ils vont aimer, et ils se disent en fait je sais exactement ce que je veux et je le trouve sur le petit ballon, soit je sais pas, et ils vont me guider comme si on parlait de ce petit génie caviste qui est toujours derrière moi. Et donc il y a plein d'outils différents qu'on met en place. Il y a des textes à trous. Je veux un vin. Tu choisis rouge, blanc, rosé à tel prix, je sais pas quoi. T'as des chatbots. T'as des petits sommeliers humains aussi derrière leur ordi qui répondent à toutes les questions. Donc
c'est quoi? C'est un service client? Enfin, c'est que ouais, t'as des vraies équipes.
Ouais, grave.
T'as combien de personnes qui est dédiées à ça?
2 personnes.
D'accord.
Trop bien. Et moi, c'est un truc que je veux.
Ça, tu voudrais le développer alors?
Ouais, je veux développer tous les outils qui fassent en sorte que...
D'accompagner le client dans ses choix et la découverte.
Ouais. Et après, on peut lui dire, en fait, là, on voit, je suis en train de te parler, la meilleure façon, c'est de peut-être passer par l'abonnement. Donc, lui proposer tous nos produits pour le faire. Mais, tu vois, là, par exemple, dans une vision beaucoup plus court terme, mais ce qu'on aimerait faire, c'est des caisses découvertes. Donc, t'achètes une caisse, les vins du Rhône ou les vins de l'Italie. Et tu reçois 6 spécificités du Rhône ou de l'Italie avec plein de contenu, et tu te fais une petite balade dans un vignoble, dans un terroir particulier, etc. Et ça, je trouve que c'est des produits qui sont hyper cool, qu'on adore, qui sont très ADN du petit ballon. Donc voilà, la vision, elle est hyper simple, et pareil, c'est un peu toujours la même depuis le début, c'est de faciliter la découverte des vins.
D'accompagner le client. Et d'un point de vue business, c'est quoi? C'est un peu plus d'omnicanalité, j'ai pas l'impression, parce que t'as pas l'air de dire que c'était très scalable, les ouvertures de boutiques.
Ouais, c'est en fait, on n'est pas assez solide.
Ouais.
Demain, si on a un partenaire de Maboule, très axé retail.
Monoprix?
Ouais, mais non, parce qu'ils sont dans un retail un peu différent. Donc non, soit on fait un partenariat et on est dans tous les monop, par exemple, ou même tous les monop et monoprix, et ce qui serait notre omnicanalité. Moi, je crois quand même beaucoup au en ligne, mais au en ligne rapproché.
Ouais. Donc avec de l'humain un peu quand même,
beaucoup
d'humain, tu disais.
Ouais. Et aussi des centres logistiques plus proches. Ce que les gens aiment aussi, c'est
des boutiques, des points relais,
presque zéro, tu vois, c'est de dire En fait, Philibert, on voit qu'aujourd'hui, t'es en Savoie. Moi, je peux te dire, tous les vignerons qui sont à moins de, je te dis n'importe quoi, 50 km de chez toi, ils peuvent te livrer directement. Ou, tu vois, on veut essayer aussi de décentraliser un peu la logistique pour, bah, si t'es en Savoie, que ton vin de Savoie ne fasse pas Savoie, Évreux, et que les que tu puisses soit aller chercher directement chez le vigneron, soit qu'il te l'envoie directement. Donc voilà, arriver à décentraliser un peu cette logistique. Ça, ça nous paraît hyper important.
T'auras quand même assuré la découverte et la recommandation.
Tout à fait.
C'est juste la logistique, elle se fait de manière plus intense.
Voilà, donc c'est...
Qu'un modèle qui a émergé récemment, bah, beaucoup de wine tech des dernières années sont sur ces modèles-là, en fait, du direct producteur, quoi, en termes de logistique.
Exactement, mais très compliqué à mettre en place, mais il y a plein de trucs. Et voilà, ce qu'on veut, nous, c'est aider le client et avoir un impact environnemental qui est le plus faible possible.
Mmh. Et que ça sera une demande, bah tu vois déjà ta demande bio qui explose et ces enjeux-là, tes clients vont être de plus en plus demandeurs par rapport à vos engagements.
Tout à fait.
Et l'e-commerce du vin, comment tu vas évoluer
L'e-commerce du vin.
Aujourd'hui, ça représente quel pourcentage l'e-commerce par rapport au...
Les chiffres sont faux.
On s'en fout.
Je sais pas qui fait ces chiffres. C'est vraiment.
Officiellement, c'est quoi alors?
Officiellement, je crois qu'il y a 400 millions qui est fait dans le e-commerce du vin. Alors franchement,
par rapport à un marché global
de plusieurs milliards et seulement 10% serait, donc tu vois, ça doit faire 4 milliards.
Ouais.
10% qui est fait en e-commerce. Et franchement, moi je connais beaucoup les acteurs. Si je fais la somme de tous les acteurs, mais on n'arrive jamais à 400 millions.
pour toi, c'est moins. C'est bien moins. Ouais, 10%. C'est... 10%, ça me paraissait beaucoup quand tu regardes les...
Non, 10%,
dans l'alimentaire en global,
10% peut-être.
3%, ouais.
Mais en tout cas, ces chiffres sont faux. Donc, je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que le e-commerce dans le vin, il y a un potentiel de croissance qui est ouf parce que c'est le dernier, c'est le truc alimentaire le plus compliqué. C'est lourd, c'est fragile, c'est pas très cher. Donc, il faut un e-commerce hyper moderne, hyper agile, très peu cher. Et très rapide. Donc c'est un peu la dernière roue du carrosse qui est une fois que ça va prendre et malheureusement grâce au Covid, ça a été un petit coup d'accélérateur parce que les gens se disent bah en fait ce vin qui avait l'air compliqué à se faire livrer, c'est quand même hyper facile et donc ça va marcher et ça va prendre.
C'est clair.
Mais ça prend du temps.
C'est sûr. On voit que les habitudes des consommations, elles ont évolué plus rapidement avec les Covid et ça, c'est un
mais les gens aussi adorent aller voir. Moi, j'adore aussi aller voir mon petit caviste. Je le connais. On est potes. Il m'offre un petit verre. Et ça, le petit ballon, on peut pas le faire. Donc, je peux pas. En fait, je suis content quand les gens vont chez le caviste aussi en bas de chez eux parce que les relations de quartier, un quartier mort, c'est l'enfer. Et donc, il faut faire vivre aussi.
Tu accueilles plus tes clients à Barcelone, là? Ils viennent pas boire un verre?
Dans ton appart, on peut pas venir.
Barcelone a été confiné.
C'est pour ça qu'il est parti.
Peux nous donner l'adresse de ton appart à Barcelone?
Bien sûr, je vous le mettrai en commentaire.
On arrive à notre rubrique
de fin.
Des fins, des questions plus personnelles. Voilà, c'est quoi ton nom?
ton adresse, non, c'est la dernière question, l'adresse.
Quel a été ton plus gros échec apprentissage avec le petit ballon et ta plus grande fierté réussite?
Mes plus gros échecs, mais j'en ai tous les jours. Hein.
Mais celui qui t'a marqué ou celui qui t'a fait, voilà, je sais pas, pivoter ou avec lesquels tu as pris plus de choses?
Je sais pas, l'ouverture internationale, je pense que c'est vraiment une... On a été des bleus, on y a trop cru, ça a jamais marché, on n'a jamais eu une lueur d'espoir. Donc je sais même pas pourquoi, en regardant en arrière, on s'est accroché. Donc on a perdu du temps, de l'argent, de la motive, on a perdu beaucoup beaucoup de choses, une vraie connerie. Mais bon, une erreur, on dit toujours qu'on apprend de ses erreurs, je sais pas trop ce qu'on a appris, mais en tout cas, c'est sûr qu'on a appris plein de trucs. Et le plus grand succès, en fait, c'est que c'est l'équipe. C'est l'équipe aujourd'hui parce que franchement, je vais au boulot, les gens sont trop contents. En tout cas, ils me font croire qu'ils sont trop contents. Mais il y a une ambiance de ouf. On est une très belle équipe. Il doit y avoir 40 personnes. On est tous plus ou moins potes. On s'entend hyper bien. Et je crois que pour La majorité, j'espère tout le monde, c'est un vrai plaisir de bosser au petit ballon. Et franchement, moi, c'est trop bien. Moi, j'ai même pas l'impression de bosser.
C'est clair. Ça, c'est un,
donc, c'est un luxe. Super, ça, c'est un, ouais, c'est un super luxe et c'est mon, ma plus grande fierté. Et donc, toujours pareil, je crois qu'on traite hyper bien, nos consommateurs, nos vignerons, mais aussi, tous les gens qui travaillent, pour nous et avec nous. Top.
Et quel conseil, pour ça, une autre question rituelle, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe, plus précisément dans le vin aujourd'hui?
T'as un qui m'appelle parce que je pourrais
lui faire gagner du temps.
Je pourrais lui faire gagner du temps. Le vin, c'est très compliqué. C'est vraiment un milieu. Faut s'accrocher. Hein.
Avec ses codes.
Faut s'accrocher avec ses codes, avec peu de marge. Et un business avec peu de marge. C'est
pour ça que tu voulais pas nous donner la marge.
Non, mais il faut faire du volume. Ouais, c'est qu'un business au volume. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de petits concurrents finalement du petit ballon. C'est que à un moment, soit tu fais du volume et t'arrives à subvenir à tes besoins primaires qui sont de payer à tes employés et tout ça, soit ça marche pas. Mm-hmm. Donc se lancer dans le vin, franchement, qui m'appelle.
Enfin, dans la distribution de vin.
Dans la distribution après, du vin, dans le vin c'est trop bien. Dans la prod c'est un autre métier, sûrement 10 fois plus dur, mais la passion. Donc je vous laisse mon mail martin@lepetitballon.com et franchement je serais ravi d'aider tous les gens qui veulent se lancer dans le vin.
Tu vas recevoir des mails.
Mais n'hésitez pas. Ça, il nous
nous t'a demandé de supprimer la partie lui donne.
Non, j'adore répondre aux clients.
Ça, c'est et du coup justement pour ça c'était un beau cadeau pour les auditeurs qui sont arrivés jusque là. On arrive à la fin et on aime bien donner des petits cadeaux comme ça pour ceux qui vont jusqu'au bout du podcast. Et on a une question rituelle qui est un bon plan bouffe à partager. Toi, tu es à Barcelone, donc
c'est original.
Voilà, c'est peut-être à Barcelone, mais ici, ou ça peut être même un resto, mais un livre, un podcast, une série, un film, un restaurant, des trucs qui t'inspirent dans la bouffe.
Ah bah c'est hyper simple, hein. C'est juste à côté de notre boutique, rue du Rocher. Et alors, on appelle ça chez Paolo, mais ça a sûrement.
Chez Paolo,
c'est quoi? Paolo, c'est un Italien.
Ah, Paolo.
Il fait que des Milanaises, c'est.
Ah, j'adore.
Trop bon, le mec est fou. C'est un spectacle. C'est tout petit, c'est trop sympa. Tu ne choisis rien, il t'amène une mayonnaise avec des pâtes. C'est trop bon, c'est pas cher du tout, et tu passes un moment de maboule.
Bah top.
Il faudrait que je vous retrouve le nom parce que
c'est pas chez Paolo, ça.
Non,
c'est le nom du mec.
Mais c'est juste à côté.
Non, mais on aime bien ces challenges là.
On va trouver
un tour quoi. Comme ça tombe bien, on va rendre visite à la boutique.
Ouais, c'est trop bien. Ouais, bien sûr.
Et est-ce que tu as un bon plan vin à ces moments sur le petit ballon, parce que l'épisode on les publie dans 10 jours, donc c'est la fin de votre foire au vin. Est-ce qu'il y a un bon plan là en ces moments ou...
Tous nos vins sont bons. Moi, ce que je vois et ce que j'adore, c'est Colombo, c'est dans le Rhône.
Jean-Luc Colombo.
Ouais, c'est un travail de maboule. Le mec est fou. Alors, on a fait un super reportage sur lui. Ça s'appelle Les Vadrouilles du Petit Ballon. On va chez lui, on le rencontre. Il a invité notre équipe à faire le tour de sa vigne, etc. Voilà, c'est les histoires du vin qu'on aime. Le mec est fou, il peut parler de vin pendant des heures, il sait exactement ce qu'il aime, il travaille trop bien. Le Rhône, même si je viens de là-bas, c'est vraiment les vins que j'aime le plus. Et je pense que tous les vins de Colombo que j'ai bu et sur le petit ballon, mais que vous pouvez trouver aussi chez vos cavistes préférés, c'est un super travail et c'est vraiment un bonheur.
Bon, on salue sa fille Laure qui travaille avec lui, que j'ai la chance de connaître.
Ah, trop bien, qui fait des super vins, qui a son vin à elle aussi, qui est hyper bon.
Ouais, c'est une belle famille, belle maison.
Ouais.
Bah, c'est un bon plan. Top.
On termine sur ça.
Très bien. Bah, ouais. Merci beaucoup, Martin.
Merci
beaucoup.
À vous de m'avoir invité. Trop sympa.
Bah, salut. J'espère que notre studio t'a plu.
J'ai adoré.
Merci beaucoup. Salut.
Salut, merci.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.